Un calme plat règne dans l'auberge. Un silence de plomb vous enrobe et vous mène doucement vers un sommeil réparateur. Faut dire que cette journée de marche n'a pas été de tout repos. Et cette auberge, qui s'est dessinée dans la brume au moment le plus opportun, était une occasion rêvée. Une promesse d'une nuit au calme dans un vieil édifice fort de son histoire. Certes, les innombrables peluches et jouets ornant chaque pièce de l'établissement vous ont un petit peu étonné. Mais la gentillesse et la bonhomie des tenants du lieu a achevé de vous convaincre que c'était la meilleure des idées. Vous vous êtes laissé guider jusqu'à votre chambre pour y dévorer un dîner frugal mais délicieux, avec profité longuement des bains chauds avant de vous glisser bien au chaud dans votre futon. Tandis que le sommeil commence à se dessiner, un léger bruit au-dessus de vous vous surprend. Un bruit sourd, comme si un objet tombait au sol, ou plutôt au plafond. Et voilà, vous êtes au dernier étage, et au-dessus de vous, il n'y a qu'un grenier. La raison reprend le dessus. C'est sans doute un tanuki qui s'est glissé là, au chaud. Mais les tanuki aussi ne sont-ils pas censés avoir des pouvoirs étranges? Au milieu de votre réflexion, un nouveau boom se fait entendre, suivi par une multitude d'autres. Voilà que les bruits courent des sprints, d'un bout à l'autre du plafond au-dessus de vous. Vous frissonnez au fond de votre lit, plongez la tête sous la couette pour tenter d'oublier le bruit et vous endormir. Mais quelle que soit cette présence au-dessus de vous, et elle est bien trop lourde pour être un petit animal, elle ne semble pas décidée à se calmer. Course, saut, objet qui roule au sol. Vous pensiez avoir tout entendu quand un bruit hors du commun vous hérisse le poil en un instant. Un rire d'enfant. Un rire d'enfant clair, cristallin, joyeux, résonne dans la nuit. Puis, plus rien. Au terme de ce qui vous semble des heures, vous trouvez enfin le sommeil, agité par des cauchemars étranges. À peine réveillé, la pensée que ces bruits n'étaient que le fruit de votre imagination vous traverse, alors que vous vous étirez, mais votre main rencontre un objet sur votre oreiller. Un objet que vous n'auriez jamais dû trouver ici. Des bouts de tissu coloré ornent un bâton de bois. Jauni, vieilli, il ne semble tenir qu'à la force des souvenirs qu'il contient. Dans votre main repose un jouet. Un jouet qui vous semble fantomatique.
Bonjour et bienvenue à la librairie Yokai.
Bonjour Mathieu, un petit rhume ? T'as la voix rouée ?
J'ai la voix politicienne.
Bah, c'est parfait pour une librairie, remarque. Moi j'aime bien le concept.
Ouais, bon, j'ai testé. Hein. La dernière fois, on a testé le défécage. Bon, bah là, on teste la voix politicienne.
Bon, explique pourquoi, parce que là, je me dis sans contexte, les pauvres qui tombent là-dessus. Pourquoi tu parles de défécage, genre dans la minute d'introduction de l'épisode ?
Bah écoute, il fallait faire plaisir à notre ami, il a un pseudo un peu bizarre quand même, Passes
Passes de Mets. Moi j'ai lu de l'espagnol, Passes.
Passes de Mets.
Passes de Mets, je sais pas peut-être, bon bref, désolé. Non,
c'est un commentaire qu'on a eu sur iTunes, il me semble, qui expliquait qu'il voulait nous mettre 5 étoiles, mais qu'on parlait de défécage. Et dans le salon.
Dans le salon,
et
en plus.
Et du coup, dans le salon. Et il était en train de manger, donc ça lui a pas plu.
Donc il
du
nous a
coup,
mis 4
étoiles. 4 étoiles.
4 étoiles. Non, il a été sympa quand même, parce que moi j'aurais peut-être mis.
C'est quand même sympa, ouais. je me souviens pas du tout.
Je ne sais plus de qui on parlait. Bah voilà, passe à SDMS. On est désolé de. Voilà, comme ça tu l'as eu dès le début de l'épisode. On va essayer de ne pas. de ne pas dire de conneries du genre.
Voilà.
Pendant l'épisode.
Qui mange pendant la librairie Yokai?
Ah bah,
on mange pas avec des livres.
Ah, tu sais, il y a des gens, ils sont pas très... Je sais pas. Ça t'arrive jamais de lire un bouquin en mangeant ?
Non, si, je rigole. Ouais, mais non, ouais. Mais si j'imaginais juste la main toute grasse en train de tourner les pages.
Voilà,
c'est
par
horrible.
Contre, dans la librairie Yokai, à l'intérieur, on vous demande de ne pas manger en lisant les livres parce qu'on a des vieux bouquins très, 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 très fragiles. Il ne faudrait pas les abîmer avec du gras, s'il vous plaît. Soyez sympa.
Ouais, puis certains livres risquent de ne pas apprécier. Vous ne voudriez pas vous attraper une petite malédiction des familles
Un Tsukumogami qui se réveille et qui vient vous manger les fesses la nuit, ça ne vous ferait pas trop plaisir. Donc voilà pour cette introduction haute en couleur, j'ai envie de te dire.
Ouais, non, c'est pas mal. Un bon joueur de politicien suivi de défécation.
Bon, à part ça, ça va comment, Mathieu?
À part ça... Bah, il paraît que mon taux de connerie est proportionnel à ma fatigue, donc ça te donne une idée assez fatiguée.
Ah bah non, plus t'es fatigué, ouais. Plus,
plus je sors des conneries. Ouais. Voilà. Donc bon, bah, je suis assez fatigué, j'espère que ça va pas polluer cet épisode, hein. Je vais essayer de me tenir à carreau.
Il y a les coupes du montage,
mais voilà. Ouais, bah, je suis pas trop compétition.
Ok. D'accord, bon.
T'as compris?
j'ai compris. Alors, sans transition, il n'y a pas eu d'épisode le mois dernier, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi? On ne s'est pas pris des vacances, c'est juste que j'ai déménagé, donc j'ai eu pas internet pendant un certain temps. On est désolé du coup de la gêne occasionnée. Et ça veut aussi dire que malheureusement, je ne peux pas twitcher, puisque je n'ai toujours pas la fibre. Donc on peut enregistrer déjà, et j'ai très peur que ça se casse la gueule le réseau et que ça coupe, mais... Touche du bois, pris le kitsune, ça devrait bien se passer. Mais par contre, pas de pleine lune du coup le 24 juin. J'espère que ce sera réglé en juillet. Et je vous fais un petit teasing parce que en septembre, la pleine lune de septembre ne se fera pas à domicile. Elle se fera sans doute en extérieur. Et je tease jusqu'au bout ou pas ?
Vas-y, tease jusqu'au bout.
Bon, elle se fera pas en France et en extérieur. Pas au Japon, hein, commencez pas à vous exciter parce que là, c'est mal parti pour aller au Japon.
J'avais préparé ma tente et tout, là.
T'avais mal compris.
Ah bah, complètement.
Donc voilà pour les nouvelles par rapport au podcast. Qu'est-ce que t'as des choses à rajouter, Mathieu, là-dessus, avant qu'on passe au yokai du jour ?
Bah écoute, non, pas tellement. J'ai surtout hâte de passer au yokai du jour.
On y va ? On se lance ? C'est parti !
C'est parti !
Le yokai du jour, il y en a qui vont être contents parce que ça fait assez longtemps qu'on nous en parle et qu'on nous le demande. Et c'est vrai que c'était peut-être une erreur de ne pas l'avoir traité jusque-là. Le Zashiki Warashi. On nous en parle beaucoup par rapport au manga et je pense que tu le connais aussi, Mathieu. Alors je ne sais pas comment il se prononce, on en a déjà parlé. C'est XXXolix.
Je crois que ça se prononce Crossolix.
Crossolix. Alors contrairement, c'est pas parce qu'il y a 3X que ça parle du coup hein, de cul, hein, ne vous en faites pas. C'est plutôt gentillet comme manga. Donc c'est un manga de Clamp où effectivement il y a un très beau, une très belle d'ailleurs, puisque on en reviendra, mais c'est un de nos premiers yokai qui sont à la fois masculins et féminins, ou qui peuvent être les deux, puisqu'en général ils sont genrés. Une Yukiona, c'est une Yukiona, c'est pas un Yukiona, tu vois. Ça devient un autre yokai.
On a vu qu'il y avait un Otoko Onna quand même. Un Yuki Otoko.
Un Yuki Otoko. Mais le Yuki Otoko n'est pas une sorte de Yuki Onna en fait. C'est carrément un autre yokai, tu vois. Et ouais. Pareil pour la Kuchisake Onna. Un Kuchisake Otoko, c'est du jamais vu, par exemple.
Enfin, t'as le Joker, quoi. Mais...
Le Joker, mais c'est pas très japonais pour le coup. Quoique, ils aiment bien le Joker au Japon, c'est vrai. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on nous demande depuis très longtemps de traiter le Zashiki Warashi, et puis du coup, bah, ce mois-ci, on y est, on s'est lancé. C'est un petit yokai très mignon, vous allez voir, un petit enfant porte-bonheur, très gentil, et qui fait pas trop de bêtises. Qui met la clim.
C'était surchauffage, voilà. Donc j'avais encore plus chaud.
Avant qu'on se lance dans la description pure et dure, comment tu connaissais le Zashiki Warashi ? Ça, c'est intéressant, on le fait jamais, tu vois. Mais quelle idée que t'avais avant de te lancer dans l'épisode et dans les recherches ?
Moi, j'avais vraiment cette idée de présence dans un ryokan. Bon, on a fait moult recherches pour la partie culture pop. C'est tellement vaste que c'est compliqué de trouver des exemples précis au final. Et je pense que dans divers mangas que j'ai vus, si ça se trouve, c'était dans un Lovina ou... Enfin, voilà, une sorte de manga dans ce style-là, où il passait des vacances dans un ryokan de la grand-mère d'une des héroïnes de l'histoire. Mais je me souviens même pas du nom hein, du manga. Il y en avait, et toute l'histoire tournait autour de ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ce que c'était, que ça existait, quoi. Mais je crois que t'envoies régulièrement en fait dans les animés.
T'envoies très régulièrement. Bah oui et non. Enfin, comme vous allez le voir dans la partie pop culture, c'est-à-dire qu'on le voit régulièrement, mais en même temps, ça reste toujours plus évoqué qu'autre chose. On le voit pas vraiment et l'histoire ne tourne jamais à 100% autour d'un Zashiki Walashi en fait. C'est plus. Pour moi, ça me fait penser à un petit Dobby en fait. Un petit elfe de maison
de Harry Potter.
Ouais, donc un petit elfe de maison qui est chez toi et qui est gentil, mais qui n'a pas forcément une légende en particulier. Alors, et c'est là que ça va être intéressant de revenir sur l'historique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit yokai comme ça. Mais en fait, la légende originelle a été complètement dépassée par l'histoire moderne, par l'interprétation moderne. Et en fait, on a carrément oublié quasiment d'où ça venait. Vous allez voir que les origines du Zashiki Walashi ne sont peut-être pas aussi sympathiques qu'elles pourraient le paraître de premier abord. Mais aujourd'hui, l'image qu'on en a et celle que Mathieu vient de donner, du coup, c'est ça, c'est une petite présence positive dans une maison qui, en fait, va vous amener la chance, l'abondance et en particulier l'argent. Donc, si jamais vous êtes en manque d'argent, on va même vous donner des petits tips sur comment attirer un Zashiki Walashi chez vous parce que ça existe, les gens, croyez-moi. Donc, ça vous amène la chance, la prospérité. On en parle, en fait, comme un mamoligami. Ça, on n'en a jamais parlé des mamoligami. Donc, mamoli, mamolu, mamolimas. On va vous faire un petit cours de...
Protéger.
Voilà, protéger. Et gami, ben, en fait, le K devient G quand vous prononcez avec un nom devant, pour faire très simple en phonétique japonaise. Donc du coup, mamoligami, c'est un dieu protecteur, en fait, qui sera dans votre maison, qui vous apportera la chance. Et puis, en général, ça peut vous apporter carrément... Si vous avez du mal à concevoir, ça peut vous apporter un enfant. Enfin, voilà, ce genre de choses. Ils sont vraiment des gens cool. Des gens qu'on aimerait bien...
Un couteau suisse, quoi.
Un couteau suisse, c'est ça. Un couteau suisse yokai. Donc, cette légende très très ancienne, comme vous allez le voir, bah, elle perdure encore aujourd'hui. Et je sais pas si t'as déjà entendu, toi, mais des fois, au détour d'une blague ou quand tu parles d'une maison, les gens vont dire « Oh, j'aimerais bien un Zashiki Walashi à la maison » ou ce genre de choses, quoi. C'est vraiment dans le lore, dans le folklore actuel que ça existe. Pour le côté étymologie, puisqu'on aime bien vous expliquer, et comme t'en parlais de l'yokan, comme tu parlais de l'yokan... Une zashiki, en fait, c'est une salle couverte de tatami. On en retrouve énormément. Du coup, si vous avez déjà fréquenté un ryokan, en général, ils sont en tatami ou ils en rajoutent au-dessus dans tous les cas. Donc, zashiki, ce sera ce type de salle où, en général, on peut s'asseoir du coup sur les genoux puisque vous avez du tatami par terre. Et walashi, c'est une façon de désigner un petit enfant. On le verra, mais en général, c'est une 7-10 ans, voilà, le zashiki walashi. On a d'autres appellations, évidemment, et vous allez voir, c'est très très multiple. Vous avez le zashiki kozo. Kozo comme le tofu kozo, etc. Kalakasa kozo aussi dont on parlait, donc petit bonze. Boko, walabe. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que non seulement chaque région a son appellation et peut-être son type de zashiki walashi, mais des fois, vous avez carrément des familles qui ont un zashiki walashi en particulier. J'ai relevé notamment Notabaliko, Kometsuki walashi ou encore Chopaliko.
Chopilako.
Oh, Chopilako. Oui, il corrige mon conducteur. Effectivement, c'est Chopilako.
Ça ne change pas le fait que ça me fait penser à des chocapics, quoi.
L'apparition, à quoi il ressemble ce petit Zashiki Walashi? Récemment, de façon moderne, c'est un enfant, et ça, c'est comme on disait, c'est rigolo, ça peut être un garçon ou une fille, c'est assez rare pour être souligné, d'environ une dizaine d'années. Alors, ça dépend vraiment selon les légendes, parce que j'ai vu que ça pouvait aller de 5 ans à 15 ans. Sachant que 15 ans, c'est quand même relativement rare. Hein. Je sais pas toi si t'en as vu beaucoup, moi, le seul que j'ai vu.
15 ans, c'est un peu la crise d'adolescence, quoi. Il va faire un peu chier.
Il commence à faire chier, ouais. Non, le seul que j'ai vu d'environ 15 ans, c'était surtout dans les représentations pop culture, justement. Je les ai pas forcément vus dans des légendes tradies. Qui est habillé, et là, vous l'avez peut-être le remarqué parmi la foule, si jamais vous le voyez, mais en tenue traditionnelle. Donc, ce sera un kimono noir pour les enfants. Ce qu'on appelle un kimono, donc, c'est l'espèce de... Je sais pas comment décrire un kimono à des gens qui ne sauraient pas ce que c'est. Une robe.
Bon, c'est l'habit traditionnel japonais, quoi.
Ouais, l'habit traditionnel japonais. Donc, du coup, il sera noir, bleu foncé, gris, voilà, des tons un petit peu sombres. Relativement classique, hein, pour les garçons, même de nos jours. Quand tu achètes un yukata pour un garçon, ce sera ce genre de coloris, de toute façon.
Ouais.
Ouais. Et puis les filles, ce sera donc ce qu'on appelle des kosode ou des folisode. Donc c'est un type de kimono. Kosode pour petites manches et folisode, c'est avec les grandes manches qui tombent par terre, qui sont, si je ne m'abuse, les kimonos qu'on met aux femmes non mariées. Les folisode.
D'accord, je savais pas.
Ce sont les grandes manches qui traînent par terre. Et le kosode, c'est des manches courtes, hein, donc relativement traditionnelles. Pour les filles, ce sera plutôt dans les tons rouges. Ça, c'est ce qui se dit. Et la coupe de cheveux, c'est important. Ce serait une coupe, ce qu'on appelle coupe au bol, hein, donc un petit carré, voilà. Et souvent, ils ont un jeu à la main. Donc ça peut être les jeux traditionnels japonais, donc le kendama. T'as déjà fait du kendama? J'en ai un à la maison. Non, enfin, c'est quoi? C'est un bilboquet, en fait.
Ah, un bilboquet, d'accord.
C'est un type de bilboquet, okay. Le bilboquet japonais. Donc, le kendama, les temali, donc les petites boules, comment dire, en tissu traditionnel. Donc, voilà, ils ont des petits jeux à la main parce que ce sont des enfants rieurs, joueurs, ce ne sont pas des petits cons. Et on les décrit avec un visage rouge. Mais les représentations modernes ont tendance à zapper le côté rouge. Et puis, surtout, on parle des joues, hein, quand on dit le visage rouge. Hein. C'est pas genre oni.
D'accord.
C'est vraiment un esprit super positif, donc dans son apparence aussi, en fait, il est positif. Et d'ailleurs, les représentations, sauf une photo qui a été prise, on en parlera tout à l'heure, mais les représentations, en général, ils sont super souriants, en train de jouer. Et d'ailleurs, si jamais vous entendez un Zashiki Walashi, en général, il est en train de jouer. Il n'est pas en train de pleurer, par exemple.
Attends, la photo que tu as mise dans le conducteur, c'est celle-là dont tu parles ?
Il paraîtrait que c'est une photo d'un Zashiki Walashi qui a été prise dans un ryokan.
Ouais, ça... Ça me paraît très réel quand même.
On en parlera tout à l'heure de ce ryokan en particulier, ouais. très lié à l'histoire des Zashiki Walashi. Où est-ce qu'on les trouve ? On les trouve aujourd'hui beaucoup, et alors là c'est pas moi qui le dis, hein, vous allez voir c'est internet, dans des ryokan, comme Mathieu le disait tout à l'heure, c'est-à-dire des endroits vieux avec une longue histoire et des salles traditionnelles. Pour revenir à notre petit Zashiki, donc, on le trouve dans des habitations qui ont une histoire, a priori, qui sont relativement anciennes. Et si le voir, c'est quand même... En fait, rien que le voir, ça devrait vous apporter la chance et la prospérité. S'il est chez vous, c'est bien, mais si vous allez quelque part et que vous en voyez un, ça peut suffire à récupérer un petit peu de cette chance, en fait. Mais souvent, on les entend. Et là, c'est rigolo, vous allez voir, ça va nous rappeler un petit peu les chasses aux fantômes. C'est-à-dire que vous êtes dans un ryokan, par exemple, et vous entendez courir, vous entendez jouer, des balles qui roulent sur le sol, etc. Et là, ça me rappelle nos histoires dont on parlait, de moi, mon voisin qui faisait du bruit au-dessus, mais qui n'existait pas, et toi, pareil, ton voisin qui était au-dessus de chez toi et qui était censé y avoir personne. Eh bien, peut-être que nous étions face à un Zashiki Walashi, en fait. En tout cas, c'est comme ça que ça se matérialise. C'est-à-dire que voilà, vous allez à un endroit où normalement, il n'y a absolument personne. Tu vas me dire, ça pourrait être un loir ou un rat, hein, peut-être, mais c'est comme ça qu'on entendra le Zashiki Walashi, en fait, se manifester.
Ce serait dans ma maison du sud-ouest, où je rentre régulièrement avant le Covid, hein, parce que maintenant, avec le Covid, c'est plus compliqué, où tu te couches au deuxième étage, sachant qu'au... Enfin, à l'étage. Je réfléchis façon japonaise, donc ouais. Au premier étage. Alors que tu as le grenier juste au-dessus, et que là, tu entends des petites traces de pas, des petits bruits de pas à minuit, tu sais. Mm-hmm. Qui marche doucement sur la mousse qui isole là, que tu as dans le grenier, là tu te dis, bon, est-ce que c'est un Zashiki Walashi ?
Bah, c'est rigolo parce qu'en France, on aura plutôt tendance à penser animal ou fantôme méchant, justement. Et a priori, dès que tu entends des bruits de pas au Japon, tu penses plutôt au fantôme gentil, tu penses plutôt au Zashiki Walashi. Alors après, oui.
Mais
et
ça,
non.
C'est facile.
Oui.
Je t'explique pourquoi. En France, les rats adorent cette substance qui isole, donc ils aiment bien aller dedans pour manger et tout.
Ouais.
Je sais plus comment ça s'appelle.
Laine de verre ?
La laine de verre, voilà, merci. Au Japon, ils connaissent pas ça.
Ouais. Hein,
pour
oui,
avoir travaillé dans le milieu de la construction des bâtiments, là, isolés, ils aiment pas trop au Japon. Ils aiment bien laisser passer les courants d'air.
Mm-hmm.
Et les rats, ils peuvent pas manger, donc ils viennent pas.
Ils viennent pas.
Donc c'est que des Zashiki Walashi au final.
Après, tu pourras avoir un tanuki, c'est vrai.
Pareil, le tanuki, il vient pour se réchauffer ou pour manger. S'il y a rien, c'est un Zashiki Walashi.
Et puis, forcément, ça vous fait peut-être penser à un petit garnement qu'on a évoqué, Toshio de Vogrudge, par exemple, qui serait... Une question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est un Zashiki Walashi ? J'ai envie de vous dire non, hein, parce qu'a priori, il a apporté ni abondance ni prospérité aux gens qui l'ont vu, Toshio, dans le film The Grudge.
Non, mais il n'est pas forcément méchant.
Il n'est pas méchant, hein, on en a fait tout un épisode de toute façon. Hein, il n'est pas méchant, lui, il fait rien de mal, hein, finalement, dans cette histoire. Mais par contre, il n'a pas ce statut de Zashiki Walashi dans le sens où il ne t'apporte pas l'abondance et la prospérité. Enfin, après, ils sont peut-être morts riches, on sait rien. Ils sont morts, en tout cas.
On ne sait pas.
Alors, on pourrait croire, hein, comme je viens de vous le dire, que finalement, ils n'apparaissent que dans des anciennes maisons où il y a des tatamis, etc. Mais, j'ai cherché un peu en ligne et j'ai vu des gens qui habitent dans des manchan, donc comment on pourrait appeler ça, des appartements, des duplex.
Je sais pas comment on dit en français, mais c'est juste un immeuble avec plein d'appartements dedans.
Donc ça vient pas de l'époque Edo, mais a priori, il y a des gens qui ont vu des Zashiki Walashi dans leur toute nouvelle maison. Donc il ne faudrait pas nécessairement avoir des tatamis chez vous pour avoir un Zashiki Walashi. Et là, c'est intéressant, je trouve. Donc pour résumer les choses... Plus simplement, ce petit Zashiki Walashi, du coup, s'il est chez vous, si vous l'entendez, il vous apportera le bonheur. Mais attention, parce que si un jour il décide de partir, là, c'est la ruine de votre famille qui va arriver. Ça explique pourquoi on parle très très souvent d'argent et de prospérité financière quand on parle de Zashi Kiwalashi, mais pourquoi aussi ça peut servir de temps en temps à expliquer, voilà, vous avez des voisins, ils ont un commerce de, je sais pas moi, de thé vert et d'algues. Et puis, tout d'un coup, leur business qui était de milliards de yens s'effondre du jour au lendemain sans raison. Et ben ça peut être une façon d'expliquer en fait pourquoi tout d'un coup la ruine arrive alors qu'il n'y a rien qui pouvait le prédire. Ce serait parce que leurs Zashi Kiwalashi, soit ils l'ont fait fuir, soit ils s'en sont pas occupés assez, parce qu'il faut s'occuper du Zashi Kiwalashi, il faut l'entretenir, il aime bien. Et puis si un jour il s'en va, voilà, la ruine va arriver également.
C'est surtout pas parce qu'ils ne savaient pas gérer leur business.
Quoi. Absolument pas, enfin, je veux dire, le capitalisme, ça marche pas comme ça, voyons, ça marche que tout le monde le sait, que c'est les sectes qui gèrent le monde financier. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on impute en fait l'existence de Zashi Kiwalashi à peut-être une façon d'expliquer dans l'ancien temps, au Moyen-Âge, pourquoi ton voisin, ton petit copain voisin de 10 ans, sa famille, elle devient pauvre du jour au lendemain. Bah, une façon en fait d'expliquer les choses sans partir dans la complexité, par exemple, de l'argent et du business, c'était de dire à ton fils ou à ta fille, eh bien écoute, leur Zashi Kiwalashi est parti et c'est pour ça qu'ils sont devenus pauvres. Je trouve ça rigolo en fait comme explication de pourquoi on a inventé le Zashi Kiwalashi à l'époque. Et pour être sûr de s'assurer le bonheur du Zashi Kiwalashi, il faudrait donc, comme je vous l'ai dit, le voir, donc partir à la chasse aux fantômes dans la maison de grand-mère peut-être pour, pour le bonheur, la prospérité. Et on vous dit aussi que c'est l'assurance de se marier et de fonder une famille. Donc si jamais vous avez du mal à trouver partenaire ou à trouver comment fonder votre famille, peut-être qu'il faut partir à la chasse aux Zashi Kiwalashi.
Peut-être qu'on fera un Twitch live de chasse de Zashi Kiwalashi.
Franchement, ça me ferait kiffer un jour de faire. Moi, je rêve de faire. On en parlera de Lyokan tout à l'heure, mais de faire un live de ce Lyokan. C'est un but que j'ai.
Moi j'aurais peur quand même. J'aurais un peu peur. Puis je sais pas si certaines personnes m'autoriseraient à y aller, sachant que. je sais que tu le dis un peu plus loin, mais que le Zashi Kiwalashi ne s'attache pas à une. Un endroit, mais à une personne.
On va voir ça tout à l'heure. Donc, effectivement, le Zashi Kiwalashi vous apportera la prospérité, mais pas que. Et là, peut-être que tu vas vouloir le ramener chez toi. Parce que si vous avez vraiment de la chance, le Zashi Kiwalashi peut s'occuper de vos enfants. Ça, je trouve ça absolument incroyable.
C'est pas mal. Et puis, en plus, il sera en terre inconnue, vu que c'est un bébé yokai.
Mais carrément. En fait, il y a beaucoup de légendes où on vous dit que le Zashi Kiwalashi sert de nounou dans le sens où il va apprendre des comptines à vos enfants, il va jouer avec eux, donc il va un peu les occuper. Donc si jamais vous avez un peu de boulot, vous n'avez pas le temps, le Zashi Kiwalashi pourrait tout simplement s'occuper de vos enfants quand vous n'êtes pas là ou quand vous ne le pouvez pas. Ça, c'est génial quand même.
Et moi ça, tu m'éclaires là. Du coup, je comprends pourquoi tout d'un coup ma fille se met à chanter des chansons, des comptines, alors qu'on ne sait pas d'où elle les sort.
Voilà. Alors peut-être si je ne sais pas si elle peut encore en arriver à expliquer les choses clairement comme ça, mais on a aussi beaucoup d'histoires d'enfants qui racontent qu'ils ont un ami qui est un ami imaginaire qui serait en fait un Zashi Kiwalashi, puisque en grande majorité, les Zashi Kiwalashi ne pourraient être vus que par les enfants. Ça, c'est ce qu'on raconte. Il y a plusieurs versions, encore une fois.
D'accord. Donc, en fait, c'est une sorte d'ami imaginaire.
C'est
ce qui
ça.
Me fait penser qu'il y a un superbe épisode. Alors, je ne sais pas lequel de quelle saison. Un épisode dédié aux amis imaginaires de Supernatural. Je vous le conseille. Il est très drôle.
Venir par faire un podcast Supernatural à la vitesse où c'est parti. Ce sera le spin-off.
Faudrait inviter ma femme en guest, alors, parce que c'est elle la grande fan.
Et donc, seuls les enfants pourraient les voir, a priori. Quand vous grandissez, vous ne pourriez... Oh là là, je me suis lancée dans un accord de temps. Quand vous grandissez, vous ne deviendriez plus capable de le voir, mais vous pourriez toujours l'entendre. Oh la vache, elle était dure celle-là. Je sais pas pourquoi je les écris pas, les phrases compliquées comme ça, je les invente sur le tas, je sais pas pourquoi.
Bah c'est l'impro quoi.
Ouais, c'est l'impro, c'est ça, être podcaster. Pour en revenir aux Zashi Kiwalashi, les dernières variantes qu'on va évoquer rapidement, puisqu'il y en a énormément, c'est en fait une variante où le Zashiki serait quelqu'un qui vous prévient de catastrophes naturelles ou d'un incendie, etc. Il viendrait dans votre maison, celui-là aurait le nom de Hosode ou de Hosode Nagate, pour rappeler les mains, pour ceux qui ont un peu de japonais dans la tête, les manches et les mains. En fait, vous verriez cette main qui vous invite à sortir de chez vous ou aller quelque part, etc. Et ce serait tout simplement moyen de vous prévenir de quelque chose qui va arriver et qui pourrait être dangereux pour vous.
Finalement, les entités surnaturelles qui sont parfois même mauvaises ou bonnes, mais qui sont là pour t'annoncer un danger... Il y en a quand même plein, quoi. Là, je repensais au Banshee, au final.
Au Banshee, à la Mabillée, quelque part, qui était là pour ça aussi.
Ouais, mais tu vois, les Banshees peuvent être agressives.
Oui.
leur apparition annonce la mort ou un grand malheur, quoi.
Un grand malheur, ouais.
Mais c'est pas pour autant qu'elles te préviennent qu'elles sont sympas, quoi. Alors que le Zashikiwarashi, lui, il te prévient et il est sympa.
Il essaye de pas forcément te sauver, mais voilà, c'est le petit warning, attention, soyez attentifs, un petit peu comme ça. Donc voilà pour le profil type du Zashikiwarashi. C'est déjà un peu complexe, hein, je suis désolée, mais c'est pas aussi simple que ça y paraît, le Zashikiwarashi, en fait. J'étais encore une fois surprise, mais c'est comme ça.
Bah, c'est le lot de tous les yokai, j'ai l'impression.
C'est la beauté du monde des yokai, j'ai envie de te dire.
C'est ça.
Est-ce qu'on se lancerait pas dans les légendes? Parce que là, pour le coup, on a encore du boulot. Je crois que c'est la partie la plus longue du podcast aujourd'hui.
C'est parti.
C'est parti.
Alors, dans les légendes.
Allons dans les légendes. Le monde de légendes. Donc, les légendes, on l'a évoqué, on vous l'a dit. Il y a des noms dans toutes les régions du Japon. Il y a des particularités dans toutes les régions du Japon. Bon, pour faire simple, comme souvent d'ailleurs, c'est essentiellement dans le Tohoku. Le Tohoku, c'est la partie du coup au nord de Tokyo. C'est ce qu'on appelle le nord du Japon, mais pas encore Hokkaido. Donc c'est entre le nord-nord et Tokyo, en fait.
Ah, c'est le nord de Honshu, quoi.
C'est le nord de Honshu, oui, tout à fait. C'est très bonne géographie. C'est le nord de Honshu. Donc, de quoi on parle quand on parle de Tohoku?
Il y a les pommes.
On parle de
pommes,
effectivement.
À Aomori.
On parle de Miyagi. Miyagi, il y a beaucoup de onsen et surtout le village des renards. Vous avez Akita Inu, les chiens. Voilà, chacun sa spécialité. Mais on parle, voilà, essentiellement de ces régions-là. On parle de Niigata aussi, donc région du riz, par exemple.
On parle de Sendai, hein.
Sendai, tout à fait.
Sendai, mais...
Donc voilà, le Tohoku, c'est à peu près cette région-là. Si vous voyez une carte du Japon devant les yeux, si vous êtes en train de manger, je vous conseille d'aller sur internet du coup pour aller chercher votre carte et regarder. Ça, c'est essentiel. Donc c'est là où vous avez le plus de légendes. Mais comme d'habitude, il n'y a pas que là. Vous en avez aussi à Saitama, dans le Kansai. Vous allez voir que les endroits hantés par des Zashikiwarashi, il y en a dans presque absolument tout le Japon. Et le concept, bah, comme tu disais à l'instant, il fait vendre. Parce que, bon, l'âme habillée, du coup. Comment dire, censé vous protéger des maladies. Là, le Zashikiwarashi, carrément censé vous apporter un max de fric, donc franchement, personne cracherait dessus, je pense. Et en plus, une auberge hantée par un enfant rieur, bah ça, forcément, ça attire du monde, et notamment, vous allez le voir, des youtubeurs. Et ça, c'est très rigolo, je trouve. Zashikiwarashi, une des variantes, le Zashikiboko. Boko, c'est juste une autre façon de dire enfant. Et qui serait présente dans la région d'Iwate. Iwate, c'est également le Tohoku, si je ne m'abuse.
C'est un des endroits où ils élèvent le plus de poulets.
C'est vrai. Donc le poulet, la région du poulet. On l'appelle aussi le Heiaboko. Donc Heia, c'est une salle, une pièce, hein, c'est pas plus compliqué que ça, ça veut vraiment juste dire ça. Donc du coup, ce serait pareil, hein, l'enfant d'une pièce, qui serait une déclinaison du yokai qui, du coup, habiterait en Iwate. Mais on parle aussi de Kurawarashi. Kura, c'est un entrepôt. Vous voyez le petit... N'importe quelle salle chez vous pourrait héberger un esprit du coup protecteur. Juste son nom changerait en fonction de l'endroit où vous le trouvez, quoi, en gros.
T'as parlé de petit d'une pièce. Est-ce que le petit d'une pièce, c'est un placard?
Ça, c'est Toshio, du coup.
Bah, je sais pas.
Comment on appelle ça, déjà? Ça a un nom, ces grands placards-là, où tu mets les futons quand tu dors pas dedans.
C'est mon pire cauchemar. Et mon bureau de télétravail, quand je travaille tard le soir... Bah, je fais dos à ce genre de placard et j'ai toujours peur qu'il s'ouvre.
Mais comment ça s'appelle?
Je sais pas.
Dashi quelque chose? Oh, je sais plus. Bah, c'est un nom particulier, donc Toshio serait peut-être l'esprit des placards, le petit du placard. Kula, c'est un entrepôt. Et là, vous voyez peut-être aussi, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, souvent, ce sont des salles inhabitées ou des endroits où il n'y a personne, ou en tout cas, personne ne dort, où il y aurait ces petits esprits, j'allais dire frappeurs, mais non, pas du tout, donc ces petits esprits protecteurs. Est-ce que vous trouvez ça compliqué? Moi, j'ai trouvé ça super compliqué. Et en fait, c'est tellement compliqué qu'il y a carrément des gens qui vont demander sur Internet, alors ça m'a mis sur le cul, quel type de Zashikiwarashi est chez eux. Genre, j'ai vu je te l'ai copié-collé, je crois, le commentaire, où en fait, le mec décrit l'esprit qu'il a chez lui et demande aux gens, s'il vous plaît, dites-moi, c'est quel type de Zashikiwarashi? Je pense qu'il fait partie du Zoku, donc il fait partie de la famille des Zashikiwarashi, et... T'as K en dessous pour dire que c'est une dénomination, donc une sous-catégorie de Zashikiwarashi qui s'appellerait le Akashagoma. Et comment il a réussi à le définir? Bah, ce sera en fonction des bruits qu'il a fait.
D'accord.
Qui serait a priori un type de bruit rattaché à la culture chinoise, je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Couleur, l'aura qu'il aurait par exemple, le type de bruit qu'il fait, la situation géographique, là où t'es dans le Japon, eh ben ça te donnerait un sous-type, une sous-catégorie de Zashikiwarashi en fonction du coup de ces conditions que tu pourrais donner sur le Zashikiwarashi qu'il y a chez toi. C'est extrêmement compliqué. Je trouve ça top, mais en même temps, ça m'a pas facilité le boulot, honnêtement.
Alors, je suis sûr qu'il y a aussi une dimension odeur qui n'a pas été citée, mais...
Peut-être, peut-être. Je t'avoue que j'ai pas écumé tous les posts hein, de Q&A sur ce site, mais il y en avait d'autres, hein, de gens qui disaient « Help, il y a un zashiki voilà chez moi, aidez-moi à l'identifier, etc. etc. » Selon d'ailleurs ce post où j'ai trouvé cette réponse-là, je vous le collerai dans l'article, il faudrait quand même un hôtel bouddhiste chez soi pour pouvoir attirer le zashiki voilà.
D'accord, bon, c'est pas un gros investissement.
C'est pas un gros investissement, et puis surtout, il y en a. Enfin, c'est quand même assez courant dans les maisonnées japonaises.
Ouais, d'avoir le petit hôtel.
Ouais, d'avoir un hôtel bouddhiste quand t'as une personne qui est décédée.
Parce que c'est pas une règle, mais souvent au Japon, c'est le bouddhisme qui est lié au décès.
Au décès et à l'autre monde.
Et le shintoïsme au mariage.
La plupart des légendes associées aux Ashiki Walashi, elles remontent à l'ère Meiji. Donc c'est un petit peu moins ancien, entre guillemets, que d'habitude. D'habitude, on est plus sur l'ère Edo. Donc là, on est un petit peu après. Et il y en a une en particulier qui est intrigante, et vous allez voir que là, on va tout de suite être moins dans le kawaii. Alors accrochez-vous, c'est parti. Kunio Yanagita, qui était un espèce de folkloriste, on va dire ça comme ça, a écrit un recueil de légendes qui s'appelle les légendes de Tono, Tono étant un village qui est situé dans une vallée, dans la région d'Iwate, justement. Pendant un voyage entre deux villages, donc Hanamaki et Tono, il explore, donc il regarde bien autour de lui, et il ne voit que trois villages, qui semblent complètement désolés, inhabités, où il n'y a plus personne. Il trouve ça un petit peu bizarre. Et en fait, du coup, il creuse pour avoir cette légende, et on raconte que les habitants d'une ville qu'on appelait Yamabito, qui était du coup située dans ces montagnes, avaient des yeux d'une couleur différente. Vous avez cette image, qui n'est pas forcément fausse, hein, d'une ethnie japonaise avec des cheveux très foncés, très lisses, et des yeux très foncés. Voilà, c'est une image entre guillemets commune, mais forcément c'est en train d'évoluer hein, avec le métissage. Mais du coup, je suppose qu'à l'époque, voilà, c'était des gens qui peut-être avaient les yeux, c'était pas précisé, mais brun clair ou vert foncé, hein, je ne sais pas. Mais du coup, ils avaient une couleur en tout cas différente, pas habituelle pour les gens de l'époque, et une constitution très solide. Donc des gens un petit peu baraques, voilà. Donc,
c'est peut-être des Ainu en fait.
Ben, je me suis posé la question, franchement. Je ne sais pas, j'ai pas le fond, il faut que j'achète ce bouquin pour le lire, mais c'est ce que ça m'évoque, parce que les Ainu, du coup, sont une ethnie qui vivait à la base, pas que sur Hokkaido, ils vivaient aussi sur Honshu, ils ont été repoussés justement à l'époque Meiji sur Hokkaido, entre autres, et ils ne font pas partie de cette ethnie principale, entre guillemets, japonaise, parce qu'eux sont issus, je crois, d'un métissage mongol, russe et japonais, il me semble, de mémoire.
C'est assez complexe.
C'est assez complexe. Ouais, hein. Mais du coup, effectivement, ils sont... Quand vous regardez des images d'Ainu sur Internet, c'est des gens qui sont plus baraques, entre guillemets, que la moyenne japonaise. Et il me semble, de mémoire, qu'ils ont aussi les yeux plus clairs. Donc.
Ça fait très mongol, pour le coup.
Ouais, je pense que ton guess n'est pas faux. C'est pas précisé. C'était un texte en japonais dans lequel j'ai extrait ça. Et tu connais les Japonais, leur amour des... Enfin, les Japonais, quand je dis Japonais, c'est pas tous, mais... Le Japon et son amour des Ainu, hein. Surtout à les,
ouais,
à
ils les
tuer.
Aiment bien, ouais. Mmh.
Donc ces habitants de Yamabito du coup étaient physiquement entre guillemets différents et un peu sauvages. Là par exemple s'ils étaient Ainu, ils parlaient peut-être pas leur langue, donc c'est vrai que ça peut faire peur entre guillemets à l'époque. Les habitants de Tono, donc de village non loin, en avaient très peur, tout le temps peur, en disant qu'ils venaient en fait dévaliser le mettre à sac en fait, hein, dévaliser le village, et quand ils faisaient ça, a priori ils prenaient des femmes, ils les violaient, et quelquefois des enfants naissaient de ces viols. Et en fait, ces filles, on les considérait, les filles du coup enceintes, comme souillées, et on n'hésitait pas à tuer ces enfants. Et c'était une honte. Et du coup, comme c'était une honte, on les enterrait à même la cuisine. A priori, cette légende serait à l'origine du Zashiki Walashi, et tout de suite, c'est quand même beaucoup moins sympa et beaucoup moins mignon.
À même la cuisine, c'est une expression où ils
non,
les enterraient
dans,
vraiment,
la
dans la cuisine.
Dans la cuisine, pour qu'en fait,
d'accord,
ça ne se voit pas.
D'accord.
Pour que les voisins ne voient pas qu'il y ait eu un enfant et qu'ils l'ont tué et qu'ils l'ont enferré dans la cuisine. Parce que je pense qu'il y avait une histoire aussi de, comment dire, de fierté de la famille qui était touchée quand ta fille...
Ouais.
Enfin, je suppose que c'était pas forcément différent en France. Quand ta fille avait été violée, elle était peut-être plus bonne à marier, par exemple.
Ouais.
Y avait pas, il n'y avait pas le détail comme ça. Mais en fait, quand vous enterrez du coup cet enfant à la cuisine, vous n'avez pas les derniers rites, vous n'avez pas de sépulture, vous n'avez pas de respect. Et ça ferait que cette âme du coup d'enfant resterait sur place. Mais donnerait quand même un zashiki walashi. Et en ça, c'est plutôt cool, le résultat, pour une fois.
Bah écoute, moins et moins, ça fait plus. Hein.
Ouais, il y a de ça. Donc ce recueil a été publié en 1909, hein, donc Meiji 42. Et en fait, la même année, là c'est rigolo, vous avez un enfant visiblement de la vallée qui déclare qu'il a vu un zashiki walashi. Donc voilà, est-ce que plus et plus, ça fait plus peut-être, je ne sais pas. Mais surtout, là où c'est intéressant, c'est que personne d'autre que lui ne semblait le voir. Que ce soit ses camarades, donc les autres enfants, ou surtout les enseignants, les adultes, ne pouvaient pas le voir. C'est gay, hein.
C'est très gay, Dans le sens joyeux, évidemment. Ouais,
mais je suis tombée des nues, parce que tu vois, l'image super positive du Zashiki Walashi, bah là, elle en prend un coup quand même. Hein.
Bah, c'est plutôt l'origine, parce que l'être en lui-même, oui. Il est toujours positif.
Oui, 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 tout à fait. Mais ça, tu vois, on n'en parle pas dans les mangas quand il y a Zashiki Walashi, de où ça pourrait venir. Alors, bah, c'est pas...
Il parle pas vraiment de l'origine.
Non, c'est pas la seule origine, il y en aurait d'autres, évidemment. Alors, l'infanticide pour cause de viol ne serait pas la seule cause, hein, parce que... Oh la vache, c'est dur à dire, hein. Franchement... On essaye de rendre les choses sympas dans la librairie, mais là, ça va être dur, les gars. Donc, l'infanticide pour cause de viol.
À une époque je ferai moins de blagues.
Voilà, à une époque où le Japon mourait de faim, bah, c'était pas rare non plus, et il y a une expression pour ça, de tuer tes enfants pour avoir... Et ça, on l'a fait en Europe aussi, hein, mais voilà, t'as trop de bouche à nourrir, bah, tu tues un enfant et t'as une bouche à nourrir en moins. Tu fais des économies.
Bah, c'est même dans ces cas de figure où ils tuaient que les petites filles et les garçons, ils les gardaient parce que ça pouvait travailler au champ.
Parce que ça pouvait travailler. Ça, en France, au Japon, je ne sais pas s'ils réfléchissaient pareil. Parce qu'en France, tu avais la dot et tout ça. Donc, enfin, bref, quel enfer. Donc, du coup, il existe un mot, je ne l'ai pas noté, mais il existe carrément un mot en japonais, en fait, pour tuer une bouche à nourrir. Voilà.
Et c'est quoi le mot ?
Je ne l'ai pas noté, je te dis, mais c'est Kuchi quelque chose, je ne sais plus, c'est supprimer une bouche ou un truc comme ça, je te le retrouverai d'accord. Si ça t'intéresse.
Kuchi Kessu.
Ouais, un truc du genre, je ne sais pas ça, un truc du genre. Mais donc du coup, voilà, ce serait une autre origine possible, en fait, du Zashiki Walashi, parce que ce serait également un enfant que tu n'as pas trop respecté, hein, voilà, tu n'as pas été très sympa avec lui. C'est vraiment horrible.
Punaise.
Horrible, horrible. Voilà, on continue, allez, sans transition.
En fait, allons sur des choses plus joyeuses.
Comme je te disais, le côté ultra kawaii des Zashiki Walashi, en fait, il est extrêmement moderne, il n'est pas forcément lié à ses origines. En fait, quand on n'est toujours pas dans le joyeux, ça va revenir, mais pas tout de suite, parce que j'ai encore d'autres trucs à dérouler.
Dépêchons-nous alors.
Quand Kunio Yanagita, dont on vient de parler, il recueille ses contes, en particulier des Zashiki Walashi, il décrit ses esprits plutôt comme des êtres un peu sauvages, pas du tout mignons. On vous parlait de coupe au bol, kimono et compagnie, là, oubliez cette image-là. Ce serait plutôt des petits enfants, du coup, un petit peu sauvages, avec les cheveux dans tous les sens. On dit même qu'ils étaient carrément brutaux, donc a priori, ils n'étaient pas forcément en train de jouer, mais plus en train d'emmerder les gosses, en fait. Et ils chanteraient des chants funèbres Shinto à tue-tête, la nuit, qui t'empêcheraient de dormir. C'est plutôt sale gosse, hein, finalement, les Ashiki, en tout cas dans cette version originelle. Mais du coup, ça, pour moi, c'est plutôt raccord avec ces histoires de viol, d'infanticide et de famine, en fait. Je comprends plus comment ils pourraient tourner comme ça. Alors, ils se sont peut-être assagis avec le temps, après, j'en sais rien.
Tu peux partir du principe que un enfant, en général, n'est pas encore tout à fait synchronisé à la société. Il est un peu en dehors de la société dans son comportement, dans son éducation, etc. Donc, tu peux imaginer que le fantôme d'un enfant soit plutôt... Enfin, moi, c'est comme ça, tu vois. Si tu enlèves l'image que tu as des mangas, c'est comme ça que moi, je l'imaginerais. Quelque chose d'un peu sauvage et brusque. Tu sais, un peu comme... ce fameux mythe du bon sauvage, parce que c'est vraiment un être qui ne vit pas dans la société. Quoi. Donc ça ne me choque pas tellement, en fait. Chanter des chants funèbres à tue-tête, ça, c'est un peu plus glauque.
On dirait que c'est vraiment juste pour faire peur aux gens et pour les emmerder. Quoi.
Bah, c'est ça, ouais. Bah, c'est peut-être l'idée. Hein.
Ouais, c'est peut-être l'idée. Ouais.
Après, ils sont un peu nés de la mort, quoi. Donc c'est... C'est lié, encore une fois, c'est lié, quoi.
Ouais, ça me paraît plus naturel, personnellement. Allez, on repasse un petit peu plus positif, allez, parce qu'on a fini. Il serait potentiellement aussi, hein, quand on en revient aux origines, le fruit du très bon travail des charpentiers et des monsieur tatami qui auraient fait votre maison. Là, tout de suite, c'est plus cool, quand même. Donc, en fait, ils auraient tellement mis d'amour dans vos tatamis, dans vos fondations, dans le bois, si vous avez une maison en bois, que... ils auraient tout simplement créé un esprit protecteur avec leur bon sentiment qui veillerait du coup sur vous et sur votre maisonnée. C'est génial ça, non ?
C'est pas mal. Il faut embaucher un bon architecte, des bons charpentiers.
Voilà. Surtout, pas forcément l'architecte, mais vraiment les maîtres d'œuvre, quoi. Les gens qui vont être dans le cambouis à ériger ta maison. Et une autre variante un petit peu plus rare, mais qu'on commence à retrouver de plus en plus, ce serait un kappa qui emménagerait chez toi et puis qui finirait par se transformer en Zashiki Walashi.
Ouais, j'aurais quand même peur qu'il aille me triturer les fesses. Hein.
Le kappa, ouais, c'est ça. Mais peut-être que quand il n'est pas dans l'eau, il le fait. Parce que tu sais, il faut que tu sois dans l'eau pour qu'il le fasse, normalement. C'est pour ça qu'il t'attire dans l'eau.
D'accord.
Je pense pas qu'il le fasse en dehors de l'eau. Donc si t'as pas de lac chez toi ou de rivière, peut-être qu'il le fait pas. Mais finalement, le kappa peut tout faire.
Imagine, tu trébuches. Tu trébuches et tu tombes cul nu sur le bidet. Hop,
ou dans ta baignoire.
Tes fesses
et hop,
sont... Ou la baignoire. Voilà, t'es fini, quoi.
T'as plus d'âme.
T'as plus d'âme. Je ne jouerai pas à la roulette russe. Hein.
Non, moi non plus, j'essaierai pas. Une autre que j'adore, parce que je vous ai dit, il y en a des milliers de légendes, c'est celle qui raconte comment les adultes qui comptaient les groupes d'enfants, et ça, je pense qu'on l'a tous vécu peut-être. Tu vois, tu comptes là, un groupe d'enfants, et puis tout d'un coup, il y en a un de trop. Et puis tu recomptes, et puis il n'est plus là. Ça, c'est une légende aussi. On dirait que c'est un Zashiki Walashi qui, en gros, est venu dans le groupe et puis est reparti, quoi.
Ça fait plus penser à des creepypasta, dit comme ça, quoi.
Un petit peu. Oh, c'est mignon, quand même. Genre, t'es en train de les compter. 11. Bah merde, ils étaient censés être 10. Ah, bah tu recomptes et là, il y en a 10. Mais là, c'est une version où les adultes pourraient les voir. Et moi, je me demande si le Zashiki Walashi, on l'a pas évoqué, mais aurait peut-être le pouvoir de se faire voir quand il en a envie. C'est une question que je commence à me poser. Ce serait pas absurde, hein, franchement.
Ce serait pas déconnant. Hein. Mm-hmm. Dans l'épisode sur les amis imaginaires de Supernatural, c'est exactement ça. Ils se font voir quand ils veulent.
Du coup, en parlant voilà, de se faire voir quand on veut, en fait, une autre possibilité, ce serait que tout simplement, seuls les membres de la maisonnée protégée pourraient voir l'esprit qui est associé à leur famille, ce qui me paraîtrait également assez logique, en fait.
D'ailleurs, ça me fait juste penser, moi, quand j'ai déménagé plusieurs fois, à chaque fois, on me disait qu'il fallait offrir une bouteille de saké à la maison, entre guillemets, pour faire venir les bons esprits dans la maison.
Je pense pas que c'est pour le Zashiki Walashi.
Je sais pas si c'est lié, mais...
En même temps, le Zashiki Walashi, si ça fait genre 100 ans qu'il est là, il a peut-être 100 ans dans sa tête, tu sais, comme dans Umbrella Academy.
Ah ouais.
Genre, il a 100 ans dans sa tête et en fait, il a un corps de 10 ans et genre, c'est pour ça qu'on lui donne pas d'alcool.
Mais ça me fait penser qu'un des appartements où j'ai fait une offrande, il y a eu une espèce de grosse bête. Vraiment un gros insecte qui a volé dans tous les sens, dans toute la maison, et qui, pouf, a disparu, et je l'ai jamais retrouvé alors que tout était fermé.
Et comment voilà, ça s'est passé dans cette maison? C'était bien ou pas?
Oh, c'était neutre, je dirais. C'était...
En tout cas, c'était pas mal.
Ouais. Oh, c'est là où j'ai demandé un mariage à ma femme, chose comme ça, donc il y a quelques événements heureux, mais c'était pas lié à la maison. Mais moi, je me souviendrai toujours de cette espèce de forme brune qui volait dans tous les sens. Parce que moi, j'ai un peu peur des insectes qui volent et qui sont gros. Mmh. Et je l'ai jamais retrouvé. Et j'ai, enfin...
Bon, allez, on continue avec une variante. Mais là, c'est une variante intéressante. C'est une histoire vécue. C'est quelqu'un qui raconte. Bah, on est exactement dans cette histoire de compter les enfants. Un groupe d'enfants joue à cache-cache et ils sont 6. Et tout d'un coup, vient l'heure du dîner. Et là, ils se recomptent et ils sont plus que 5. Bon, pourquoi pas, mais surtout, aucun des 5 enfants du groupe qui reste ne parvient à se souvenir de ce 6e camarade avec qui ils ont joué tout l'après-midi. Et ben, ce serait potentiellement Zashiki Walashi aussi. C'est presque mignon comme histoire. Genre, il est venu jouer avec eux et puis il s'en va. Moi, j'aime bien.
Moi, ça me fait peur, ce genre d'histoire.
Bon, chacun sa version, du coup, mais si jamais ça t'arrive, bah, tant que t'es une petite fille, tu vas peut-être aller, un petit bébé yokai, pardon, tu vas peut-être aller à la rencontre dans Zashiki Walashi sans le savoir. Peut-être qu'un jour, elle va te parler d'un camarade que personne ne verra.
C'est possible, c'est possible. Non, nous, ce qui s'est passé, en fait, c'est un truc un peu différent. C'est une fois, c'est ma femme qui l'a vécu. Elle est allée à la crèche récupérer le bébé yokai et il y avait une dame qu'elle n'avait jamais vue avec les cheveux blancs qui apparemment se faisait passer pour quelqu'un du staff.
D'accord.
Et on ne l'a plus jamais revue. Et quand on regarde les photos, qu'on demande au staff qui était cette jeune femme, enfin cette femme avec les cheveux blancs, ils ne savent pas de qui on parle en fait. Et en fait, le truc qui était assez drôle, c'est que d'après ma femme, elle a fait un signe un peu étrange, par rapport avec le moment. Les autres personnes, apparemment, ne la voyaient pas. Enfin,
il n'y avait pas... C'est pas un Zashiki Walashi.
Il y a vraiment cette... Alors, tu sais, après, notre cerveau, il se met dans des conditions. T'as l'impression que le moment est étrange. En fait, il est tout à fait normal. Hein, Donc, je sais pas. Mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est que j'ai demandé et tout. Hein, jamais vu cette dame, quoi.
Est-ce que le bébé yokai a vu ?
Elle l'a vu, ouais. Le bébé yokai, il l'a vu.
Bah écoute, bon. tu nous feras un follow-up de cette histoire. Tout le monde veut savoir maintenant.
Non, je ferai un follow-up, ouais, mais c'est très étrange quoi.
Bah du coup, c'est pas un enfant, donc ça pourrait pas être le... Peut-être qu'un jour on tombera sur ce yokai, dans la Yuri Yokai, on tombera sur...
Qui sait.
Ça pourrait être une Yamamba, mais elles sont méchantes normalement, les Yamamba.
Bah c'est ça, ouais. J'ai de suite pensé à ça, et puis je me suis dit, bon, elle est méchante. Bah donc là, elle avait pas l'air méchante, donc...
Bon, admettons, le Zashiki Walashi, a priori, on veut s'en faire un copain, parce qu'il vous apporte que des bonnes choses. Mais si, je sais pas, un jour quelqu'un veut du mal, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a une histoire, on l'a retrouvée. Un homme riche d'Iwate, apparemment, peut-être que lui, il voulait pas dire que son succès venait du Zashiki Walashi. Donc il a tout fait pour s'en avoir assez, au point où il a carrément tiré sur un Zashiki Walashi avec une flèche. Le mec, il y va pas de main morte. Et comme ça, bah, il l'a blessé. Eh bien, écoutez, les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir, puisque dans la foulée, sa famille à lui a perdu absolument tout leur argent, et ils ont même carrément dû vendre la maison. On ne déconne pas avec les arcs à flèches, et surtout pas avec les achiquets ou alachis. Donc si jamais vous en voyez un, hein, ne soyez pas méchant avec lui. On va vous donner... Bah en fait, a priori, c'est là où c'est un peu dangereux, c'est que tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu ne peux pas, dans tous les cas, ça se passe mal.
C'est ça, c'est un peu le côté empoisonné. Mmh.
Si ça t'apporte le bonheur, mais t'as pas le choix, en fait. Bon, une petite dernière pour la fin, on vous en a fait pas mal, là. Il y a 100 ans, à Tokyo, on racontait que quiconque... Eh, elle est rigolote, celle-là. On racontait que quiconque entrait dans un entrepôt, donc c'était sans doute un kura walashi ou un kura boko, quiconque entrait dans l'entrepôt de Umehara Sotoko, donc c'est une histoire, enfin, une histoire vraie, je ne sais pas, mais en tout cas, l'endroit existe, était pris d'une soudaine et irrésistible envie d'uriner, au point de devoir partir en courant pour se soulager. Et tout ça serait la faute d'un zashiki walashi pas très sympa, quand même.
Alors, attends, je mets quand même un petit... l'entrepôt s'appelle Umehara, c'est ça?
Ouais.
Et Umehara, c'est un, ça veut dire un peu la plaine de la prune. Oui. Ume, c'est la prune. Mm. Donc peut-être que c'était une fabrique d'Umeshu. Et donc les gens, ils buvaient ça. Quand ils rentraient, ils en buvaient plein. Et donc du coup, forcément,
du coup,
ils
avaient envie de pisser. Mais a priori, la légende dirait que c'est dès qu'ils mettaient le pied dedans. Alors peut-être qu'ils avaient bu avant, après, j'en sais rien. Mais dès qu'ils mettaient le pied dans l'entrepôt... Hop, il fallait aller pisser, quoi.
C'est un peu l'histoire romancée, quoi. Ils rentraient dedans, ils buvaient comme des porcs, et puis après, ils allaient...
Et
forcément...
hop là. Alors, il existe des dizaines, des centaines, des milliers, j'en sais rien, de légendes associées aux Zashiki Walashi, mais dans toutes celles que j'ai lues, et à mon avis, il n'y en a aucune qui déroge à la règle, il n'est vraiment dépeint comme quelque chose de nocif. C'est-à-dire qu'il peut être taquin, comme qui ? Comme notre cher Kalakasa, peut-être ? Donc il peut être,
je pensais à lui.
Ouais, voilà, il peut être taquin, il peut être un petit peu mesquin, voilà, il vous donne envie de pisser, ça peut être un peu chiant si vous étiez dans un rendez-vous professionnel par exemple, mais jamais il va s'attaquer à vous, jamais il va, comment dire, vous faire du mal, et de toute façon, si jamais vous êtes ruiné quand il s'en va, c'est pas lui qui vous rend pauvre ou qui vous fait du mal, c'est juste qu'il s'en va et que la chance part avec lui. Donc c'est pas quelque chose d'actif, ouais. En fait.
Ça me fait d'ailleurs penser à un supernatural où il perd de toute chance. Donc c'est pas mal aussi.
On va s'appeler la librairie supernaturelle, hein, c'est bon.
Ouais, ça me fait penser, tu parlais du Karakasa il y a deux minutes. Le numéro 99 de One Piece qui vient de sortir au Japon, enfin qui est sorti récemment, il y a un gros Karakasa sur...
La couverture, c'est pas vrai.
Ça se passe dans le folklore japonais, et donc t'as aussi la lanterne dessus, enfin t'as plein de petits yokai dessus.
Je savais même pas qu'il y avait des yokai dans One Piece, hein. C'est pas pour ça que je vais m'y mettre, les gars.
Ils sont sur l'arc Japon et un des adversaires peut animer les choses, on va dire, et donc il a fait plein de yokai pour rigoler.
D'ailleurs, en parlant manga yokai, je pense que t'as entendu parler de Gantz.e, enfin Gantz 2.e.
Non.
En fait, c'est un...
Pas du tout.
C'est la suite de Gantz, mais qui... Enfin, suite ou spin-off, peu importe, qui se passe à l'ère Edo.
Oh,
c'est Azertov, un pote qui arrête pas de m'en parler, qui est très fan apparemment, et il faut que je prenne le temps. J'avais lu le premier chapitre et il n'y avait pas de yokai, mais je pense que dès qu'il y aura des monstres, ce sera des aliens yokai, comme il peut y avoir dans Gantz normal, en fait. Donc tout ça pour dire que le Zashiki Walashi, a priori, ne serait jamais vraiment nocif. C'est typiquement un esprit protecteur, c'est juste qu'effectivement, s'il était chez vous et qu'il s'en va, bah, a priori, la chance qu'il avait amené avec lui va s'en aller. C'est pas une raison pour lui dire dessus si vous le voyez, voilà. Et on l'a redit, hein, mais un Zashiki Walashi, ça s'entretient. C'est pour ça qu'il reste chez vous, c'est parce que vous êtes gentil avec lui. On va vous donner des petits tips après pour vous en occuper comme il le faut, mais c'est pas la chance qui vous tombe sur le coin du bec et c'est fini. Non, 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 il faut travailler pour sa chance, les gars.
Ah, ça c'est très macroniste comme façon de penser. Hein.
Le travail, tu traverses la route et tu l'as, merde alors. La prochaine partie de cet épisode est un petit peu applicative. On va partir à la chasse aux Zashiki Walashi. Je viens de vous le dire à l'instant, des petits tips pour l'entretenir, pour qu'il reste chez vous, mais également pour l'attirer chez vous. Est-ce que tu voudrais un petit Zashiki chez toi, Mathieu ?
Non. Non, pas trop. Je préfère avoir une chance normale plus qu'être surchanceux et de le regretter.
En plus, t'as déjà un bébé yokai. En soi, ça va peut-être t'attirer un peu de chance.
Voilà.
Peut-être. Ouais. Hein. Donc, commençons par faire un bilan de votre maison. Voilà. Il faut, avant de vouloir attirer un zashiki, il faudrait peut-être déterminer s'il y en a un ou pas. Peut-être qu'il y en a un et que vous ne le saviez pas. Comment savoir si vous êtes hanté par un zashiki walashi ? Le bruit principal à écouter la nuit, ce sont les traces... Pardon, c'est pas un bruit, une trace... L'indice.
Trace de pas. Des... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais...
L'indice principal.
Je m'en suis même pas rendu compte.
L'indice principal qui va vous permettre d'identifier la présence ou non ou l'absence d'un sashiki warashi, ce sera de trouver des traces de pas d'enfant. Alors, on disait beaucoup des traces dans la poussière parce que, bon, à l'époque, vous aviez vos tatamis, mais vous aviez le genkan qui était du coup à même le sol, à même terre. Donc, du coup, c'était facile, une fois qu'il montait sur le tatami, de voir des traces de pas, par exemple. Mais ça pourrait être dans de la farine, ça pourrait être dans n'importe quoi. Dans la poussière, notamment dans les greniers, je pense, ou des coulas des entrepôts. Donc, cherchez des traces de pas d'enfants qui n'auraient pas lieu d'être. Hein. Si vous avez 10 mômes de 10 ans à la maison, forcément, vous allez avoir des traces d'enfants. Mais si vous vivez seul ou en couple, ou comment dire, ou juste avec des animaux, voilà, des traces de pas d'enfants, ça devrait vous mettre en tout cas sur la voie. À écouter, cette fois-ci je ne me trompe pas, des bruits étranges la nuit, en particulier, visiblement le Zashiki Warashi est comme les chats, il est surtout actif la nuit, qui pourrait suggérer qu'en fait quelqu'un est en train de jouer, de s'amuser, ou alors, dernier, des rires d'enfant. Moi, le rire d'enfant la nuit, j'ai pas envie de l'entendre, personnellement.
Non, non, ça fait un peu peur, quoi. Pour ce qui est des bruits, par contre, ça marche pas si vous avez un chat. Enfin, voilà.
Ah, mais tu sais, des fois, t'entends des bruits, tu te dis c'est pas ton chat, hein.
Ouais. Moi, je me dis, ça n'a pas l'air d'être mon chat, mais il a dû trouver un moyen ingénieux
de faire du bruit d'une nouvelle façon. Selon les variantes hein, de la légende, il pourrait habiter dans les pièces à vivre inoccupées, donc on en parlait tout à l'heure, les entrepôts, les greniers, etc. Ou encore un garage, par exemple, où vous n'allez jamais. Donc ce serait visiblement pas des pièces de vie, dans le sens où vous, pas là où vous dormez, en tout cas. En particulier dans les auberges, et en particulier une auberge au Japon qui s'appelle Ryokufuso, on va beaucoup en parler de cette auberge. On épellera tout à l'heure pour ceux qui veulent chercher, atteste que ses clients, qui seraient en train de dormir chez eux, ont des paralysies du sommeil. Donc la paralysie du sommeil. Alors j'ai eu la chance de ne jamais en avoir. Je crois que toi, tu as déjà eu cette expérience.
J'ai eu les symptômes de la paralysie du sommeil, c'est-à-dire les hallucinations. Mm-hmm. Je serais incapable de dire si c'est lié au fait que j'avais vraiment une paralysie du sommeil ou pas.
D'accord.
Ça m'est arrivé une ou deux fois.
On va vous expliquer rapidement ce que c'est. On en parle beaucoup récemment, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, la paralysie du sommeil, ce serait un espèce d'état de demi-conscience où en fait, vous auriez, donc, comme Mathieu vient de le dire, potentiellement des hallucinations auditives, mais même... sensorielles, voilà, des hallucinations.
Même visuelles, hein.
Ouais, visuelles, auditives, sensorielles. Donc cet état de demi-conscience, de demi-sommeil, en fait, qui ferait que votre cerveau n'arrive pas à faire la différence entre la réalité et le rêve. Mais là où ça s'appelle une paralysie du sommeil, c'est que comme tu n'es pas complètement réveillé, tu n'arrives pas à bouger. Donc ça peut créer des situations de peur extrême, parce que du coup, tu as l'impression, et tu y crois quand tu le vois, puisque tes sens te le disent, qu'il y a quelqu'un dans ta chambre, qu'il y a un monstre dans ta chambre. C'est un gros sujet dans le monde paranormal, hein, parce qu'il y a des gens qui penseraient que c'est quelque chose de typiquement, comment dire, terre à terre, c'est vraiment ton cerveau qui te joue des tours, mais il y a des gens qui pensent que ce serait causé, hein, en particulier par des esprits, des fantômes ou des monstres.
Une des paralysies que j'ai faites, et je dis que c'est pas une paralysie parce que j'étais pas paralysé, mais j'ai eu, j'étais à moitié endormi, et je somnolais, et j'ai vu du plafond une araignée énorme, mais genre une araignée que tu trouverais qu'en Afrique ou en Australie, quoi, tu vois, mais descendre et se mettre sur moi et aller dans le lit. Ce qui me fait. Donc, ça, c'est le premier symptôme, c'est l'hallucination. Et le deuxième, ça a été l'angoisse et la frayeur que ça a provoqué chez moi. J'ai eu une peur, tellement peur que j'ai roulé sur le côté. Donc, tu vois, j'étais pas paralysé et j'ai écrasé ma copine du moment, la pauvre. Et j'ai hurlé. Je hurlais, ça m'est rarement arrivé dans ma vie de hurler, mais là j'ai hurlé de peur, quoi.
C'est a priori le problème de la paralysie ou pas. Enfin, c'est comme ça que t'en sors, en fait. C'est au moment où t'arrives à bouger, a priori ton cerveau, hop, il arrive à raccrocher les wagons, c'est une paralysie du sommeil, tu n'as rien vu. Mais c'est pas pour ça que c'était pas une paralysie, parce que peut-être que tu l'étais au début, mais que t'en es pas rendu compte, par exemple.
C'est vrai, mais en tout cas, on n'a jamais retrouvé l'araignée, donc.
Donc tu l'as imaginé en tous les cas. Ou peut-être que tu rêvais et que tu t'es réveillé au moment où tu... Enfin bref, c'est compliqué. Puis ça fait un certain temps maintenant, donc peut-être plus tous les éléments très frais en tête non plus.
Ah bah ça doit bien faire 9 ans. Mais le moment, je m'en souviens comme si c'était hier, quoi.
Mais donc du coup, cette auberge, donc pour revenir au sujet, donc Ryokufuso, atteste en fait que des paralysies du sommeil de l'hôtel seraient en fait l'acte de Zashiki Warashi qui, en gros, ferait des petits tours au client. Donc la photo qu'on voit au-dessus, Mathieu, du coup, que je t'ai mis, serait une photo de Zashiki Walashi. Effectivement, ça a l'air très réel. J'ai pas regardé la légende, mais dans beaucoup de sites qui parlent de Zashiki Walashi, on l'expose comme une preuve que ça pourrait exister. Mais c'est très typique, parce que du coup, tu vois les tatamis, la petite coupe au bol et le petit kimono noir. On est vraiment dedans. Puis l'hôtel bouddhiste derrière, ouais, pour ne rien gâcher.
Là, je suis tout seul, donc je vais pas regarder la photo. Je l'ai vu tout à l'heure.
On parlait de cette auberge-là, Lyokofuso, qui je crois est à Iwateken aussi d'ailleurs, hein. Mais c'est vraiment le fief, hein, du Zashiki Walashi, Iwateken, donc le poulet et le Zashiki Walashi. Mais une rapide recherche m'apprend très vite, hein, en japonais, qu'il y a des tas d'auberges qui attestent que vous pouvez passer une nuit avec un Zashiki Walashi. Alors elles se mouillent pas trop, hein. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y en a un dans l'auberge, après, eux sont pas responsables du fait qu'elle va se montrer ou pas, qu'il va jouer ou pas. Mais si vous voulez passer une nuit avec un Zashiki Walashi, a priori, nous avons toute une liste d'auberges que l'on peut vous envoyer où vous pourriez potentiellement aller passer une nuit. C'est assez courant et a priori c'est vraiment un atout touristique. C'est-à-dire que tu sais, des fois on dit oh mais l'auberge elle est hantée, t'as des gens qui voudront pas y aller machin. Là le Zashiki Walashi, comme c'est un esprit qui est pas méchant en plus, les gens veulent vraiment aller voir et peut-être avoir l'expérience du coup d'une nuit avec un fantôme.
C'est marrant cette envie que les gens ont envie de passer avec les fantômes, alors que quels que soient les livres ou les films que tu vois, c'est toujours une mauvaise idée.
Bah c'est peut-être parce que justement cet esprit est tellement positif qu'ils doivent penser qu'ils prennent pas trop de risques. Ouais. Je ne sais pas. Alors est-ce qu'on a des vidéos de Zashiki Walashi? Est-ce qu'on a des formes de Zashiki Walashi à vous montrer? Non, mis à part cette photo mais qui m'a l'air complètement fake dont on était en train de parler. Par contre, vous avez plusieurs vidéos sur YouTube où les gens ont enregistré effectivement des bruits de pas. Bon après, si vous avez dormi dans un ryokan, vous savez qu'effectivement l'isolation est pas top, et on est quasi en contact avec l'extérieur. Un loir, un tanuki, un chat, un rat, enfin ça ferait le même bruit à mon avis, mais. À étudier, à regarder, si ça vous intéresse, de chercher les chasseurs de fantômes qui vont chercher des Zashiki Walashi, il y en a énormément. Si vous le cherchez en Iwate, département d'Iwate, a priori, il faudrait tenter votre chance dans une école, parce que en journée pour le coup, hein, les Zashiki Walashi adoreraient aller à l'école pour jouer avec les enfants la journée. Donc tu demanderas à bébé Yokai si la journée, il y a un Zashiki qui vient chez elle. Donc, on vous disait des petits tips pour attirer un Zashiki Walashi chez vous. Alors, a priori, il faut vous y prendre assez tôt, c'est-à-dire au moment où vous êtes en train de construire. Donc, si vous êtes en train de construire, prenez des notes, ça peut servir. Plusieurs méthodes. Pour l'attirer dans une nouvelle maison, on vient de vous le dire, donc, disposez des pièces de monnaie dans votre maison de manière, en fait, à lui donner envie de venir. Donc là, j'ai un peu envie de dire, c'est la prospérité appelle la prospérité. C'est, tu mets des pièces pour attirer les pièces, quoi.
Ah, c'est un peu ça, non?
C'est un peu ça, ouais. Et il faudrait les mettre, attention, c'est pour ça que je vous dis quand vous la construisez, dans les fondations, à l'intérieur des fondations, pas par terre, dans le coin, là. Ça va pas marcher. Donc quand vous êtes en train de faire les fondations de la maison, des pièces aux quatre coins, voilà, partout, pour l'attirer chez vous. Au détour du web, on vous conseille également, et alors ça, vous pouvez le faire une fois la maison construite, c'est de laisser, en fait, de quoi divertir le Zashiki Walashi. Parce qu'il faudrait pas qu'ils viennent chez vous et qu'ils s'emmerdent quand même. Donc voilà, des jouets, kendama, petites boules. Ils aiment bien faire rouler des balles apparemment, hein. Ça c'est un petit conseil aussi.
C'est la balle qui roule toute seule, tu sais pas d'où elle vient.
Voilà, ça, ce serait peut-être un Zashiki Walashi. Tu vois, ce serait pas si terrible finalement les fantômes. Donc laissez-lui, voilà, par terre, de quoi se divertir. Le rangez pas toutes les nuits, il faudrait pas qu'il aille le chercher non plus. Mais du coup, voilà, de quoi jouer, ça pourrait attirer un Zashiki Walashi chez vous, qui du coup aurait une raison de rester. Et pendant ce temps-là, il ferait pas d'autres bêtises. Il irait pas vous casser des placards ou renverser de la farine, etc. On vous conseille également de mettre du azuki meshi. Azuki meshi, du riz au haricot rouge, hein. J'ai pas su trop comment traduire ça autrement. Oui, haricot rouge, ouais. Sucré, hein, attention, c'est pas du chili con carne, hein. C'est plutôt...
Ouais, c'est les gâteaux japonais avec de la pâte de haricots rouges.
Meshi, non, je pense que c'est un bol de riz avec des haricots dedans. Tu sais ce qu'on leur donne au Shichigo-san, okay. Par exemple, je crois. Donc c'est très apprécié des enfants. Donc a priori, si vous en disposez chez vous, sans doute près de l'hôtel bouddhiste, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, eh ben, ce serait un bon moyen, entre guillemets, de l'attirer, c'est de lui donner en tout cas un petit peu faim. Et un dernier tips, un moyen de l'apaiser, parce qu'on sait jamais, imaginons vous avez un Zashiki Walashi, et puis je sais pas, il a, comment on appelle ça, le syndrome de l'hyperactivité, il est tout le temps en train de courir partout, voilà, vous voulez le calmer un peu. Mettez une balle dorée sous le sol de votre cuisine. Et en fait, là, on se rapporte directement à cette légende Yamabito dont on parlait tout à l'heure, où on aurait enterré, du coup, des enfants qui seraient issus d'un viol dans la cuisine.
Ouais, C'est triste quand même.
C'est triste, histoire. C'est super triste. Donc pour les apaiser, et pas forcément au sens calmé, une tape derrière la tête, mais vraiment apaiser, une balle dorée, ce serait peut-être un moyen aussi de lui faire une petite offrande pour qu'il puisse jouer dans l'autre monde tout simplement. Attention, dernier conseil, comme tu le disais tout à l'heure, le Zashiki, il serait pas attaché au lieu. Donc c'est-à-dire que même si vous la tirez chez vous avec tous ces petits conseils, eh ben, si vous déménagez, il va vous suivre. Mais ça veut aussi dire que si vous déménagez, il va vous suivre. Donc c'est pas comme ça qu'on se débarrasse d'un Zashiki Walashi. On ne peut pas. C'est vraiment une saloperie. Moi, j'en veux pas, honnêtement.
Écoute, moi, je suis partisan du « si ça se passe bien sans, pourquoi prendre le risque d'en rajouter ?»
Après, je dis pas, s'il vient, je vais pas le foutre dehors, tu vois, mais j'irai pas le chercher, en tout cas. Enfin, j'irai pas lui dire « viens chez moi ».
Voilà, pareil, pareil. S'il vient, c'est que ça devait être ainsi.
Donc, après ces petits conseils, vous voulez peut-être voir un Zashiki Walashi sans l'attirer chez vous. Comme on vient de le dire, ça peut être très compréhensible, on est plutôt de votre avis. J'ai dressé une liste que je mettrai à disposition de ceux qui le veulent.
Oui.
De...
Alors, je tiens quand même à retirer toute responsabilité
Yokai.
Yokai, il arriverait quelque chose.
Voilà, mais j'ai une liste des endroits qui sont réputés les plus hantés sur des sites de voyage, etc., affichés comme hébergeant un Zashiki Walashi, si jamais vous voulez passer une nuit là-bas. La plus connue, on l'a évoquée hein, juste avant, elle s'appelle Yokofuso. Le nom complet, c'est Zashiki Warashi Densetsu no Yado Yokofuso. Ça veut dire l'auberge Yokofuso de la légende du Zashiki Warashi. Elle est connue pour beaucoup de choses, et pas forcément pour le Zashiki en fait. Elle a toujours été réputée comme hantée, parce que son histoire date de très longtemps. Et ce serait en fait le décès d'un enfant de 6 ans d'une maladie, c'est une histoire horrible. Je voulais pas copier en entier, mais c'est une histoire horrible. Du coup, il serait décédé dans l'auberge, foudroyé par une maladie, et au moment de rendre son dernier souffle, il aurait dit qu'il protégerait la famille pour l'éternité, ce qui aurait apparemment causé la naissance de cette légende. Il s'appelle, parce qu'il a un petit nom, Kamemaro. Et c'est mignon et pas mignon, vous allez voir. Mais du coup, ce serait, voilà, typiquement, là, ce serait un Zashiki Walashi sous catégorie Kamemaro, tu vois. C'est le Zashiki Walashi Kamemaro. Il a un petit nom, en tout cas. Donc cette auberge est la plus connue du Japon, entre autres parce qu'en fait, elle a brûlé. Elle a brûlé en 2009 et elle a réouvert en 2016, donc quasiment 10 ans après, grâce à des dons, hein, parce qu'il y avait apparemment beaucoup de boulot. Et alors, je trouve ça rigolo parce que une auberge hantée par un Zashiki Walashi qui brûle, c'est pas très abondant et prospère, ça.
C'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder,
c'est la suite.
Qu'en 2016,
il
a réouvert et a gardé toute. Et encore, tu connais pas le backstage. Si ça se trouve, il était assuré. Sur une petite fortune.
Peut-être.
Et donc, en brûlant, ça a ramené plus d'argent qu'il n'y aurait eu s'il n'avait pas brûlé. Tu sais pas.
Dans tous les cas, et je ne sais pas si c'est... Alors, il a des très bonnes notes. Hein. Donc, c'est-à-dire que non seulement il serait habité par le Zashiki Walashi, mais en plus, vous êtes très bien accueilli là-bas. Donc, c'est-à-dire que même si vous ne le voyez pas, les notes sont excellentes. A priori, le service est au top, le staff est super sympa, et il est tout neuf, du coup. 2016, pour un ryokan, c'est quand même relativement neuf. Mais depuis qu'il a réouvert, il ne désemplit pas, victime évidemment de son succès, mais surtout de sa réputation d'auberge hantée. Les youtubeurs du Japon entier se pressent là-bas, et a priori, ils ont beaucoup de difficultés à trouver des slots pour y aller, parce que c'est vraiment, vraiment couru, quoi. Tout le monde veut aller dans cette auberge. Tu le vois dans les commentaires, hein, j'en ai copié quelques-uns de Travel Rakuten, où les gens disent qu'ils ont pris une photo où on voit une lumière qui serait le Zashiki Walashi. On ne le voit pas. Également des gens qui disent qu'ils ont carrément joué avec le Zashiki Walashi. Enfin, je veux dire, on est dans un autre monde, quoi. Et si vous allez sur YouTube, vous avez effectivement des tas de vidéos de YouTubeurs connus. Hein. Hajime, elle est là-bas. Donc c'est un YouTubeur relativement connu au Japon, qui vous font des nuits où lui, s'est carrément filmé toute la nuit en train de dormir et il vous a fait une cut où à chaque fois, on entend des bruits bizarres. Voilà, ce serait le Zashiki Walashi. Des blogueurs, etc. Moi,
J'aimerais bien que Mr. Yabata n'y aille.
Ouais, il me saoule, j'en peux plus de ce mec. C'était rigolo au début, mais j'en
je regarde très rarement.
Ouais, de temps en temps, ça va. Pour ceux qui voudraient prendre des notes, c'est le moment. Donc, c'est dans la région, dans la préfecture d'Iwate, dans le nord du Japon. Elle s'appelle Zashiki Walashi. Donc, on vous l'a pas épelé, mais Zashiki Walashi, c'est Z-A-S-H-I-K-I, espace W-A-R-A-S-H-I. Densetsu, légende, D-E-N-S-E-T-S-U, no, N-O, Yado, Yado et Lyokofuso, donc R-Y-O-K-O-F-U-S-O. Voilà, c'était le moment dicté. J'espère que vous pouvez vous repasser le moment pour le noter. Mais du coup, voilà, c'est la... Comment dire ? C'est l'auberge, c'est l'endroit hanté par un Zashikiwarashi par excellence. Mais il en existe d'autres dans la région. À Dewasanzan, t'as déjà été à Dewasanzan ?
Non.
Yamagata Préfecture, c'est un haut lieu de la spiritualité japonaise. Ben, Sanzan, hein, trois...
T'y allais, toi ?
Ouais, j'y suis allée, ouais. Il y a beaucoup d'escaliers. C'est connu, en fait, parce qu'il y a un temple très connu dans la spiritualité japonaise qui est là-bas. Et donc, a priori, ben, au pied, je crois, de Dewasanzan, il me semble, de mémoire, vous avez, du coup, une... comment dire ? Une auberge, effectivement, hantée, mais également à Osaka, à Kyoto, dans un temple, puisque ce n'est pas uniquement dans les ryokans. Tu parlais d'église, temple, on n'en est pas loin, mais aussi à Yamagata, Kagoshima, Oita, Niigata, etc., etc. Il y en a vraiment absolument partout. Pour vous dire, Oita et Kagoshima, c'est tout au sud du Japon, c'est pas Okinawa, mais c'est sur Kyushu, donc il y en a vraiment absolument partout. Si vous la voulez et qu'elle n'est pas disponible, envoyez-moi un mail, je vous enverrai la liste de ceux que j'ai trouvés, mais a priori, hein, c'est vraiment le premier dont on vous a fait l'historique, qui serait le « The Place to Be ». C'est l'endroit où il y a un Zashikiwarashi. Et c'est l'endroit où un jour on fera un live, c'est promis, de la librairie, ok.
Et puis, oui, pour ça, il faut dépasser le palier à 20 000 euros par mois. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème.
Une fois qu'on a 20 000 euros, on peut y aller, les gars.
Lançons un appel. Si vous aussi, vous avez joué avec un Zashikiwarashi, envoyez-nous vos vidéos et vos photos, vos selfies. Que dis-je ? Mais envoyez toute preuve que vous avez, tout témoignage d'expérience. On pourra peut-être même demander à Asa, dans son podcast, de demander à quelqu'un de raconter son témoignage de Zashikiwarashi.
Tu fais bien d'en parler parce qu'on a complètement oublié de le dire. Parce qu'on ne l'avait pas dit dans l'épisode d'avant et puis du coup...
Ah mince, je pensais qu'on l'avait dit dans l'épisode d'avant.
Mais non, je crois pas. Donc du coup, voilà,
disons-le là,
c'est l'interlude guest. Donc, on a fait un guest dans un autre podcast, si ça vous intéresse. Je crois qu'on n'en avait pas parlé, je ne suis pas sûre. Chez les Chroniques de l'étrange avec Asa, dont on a été parlé pendant deux bonnes heures, un petit peu moins toi, t'avais dû partir, mais de la forêt d'Aokigahara. Donc on a parlé fantômes, mais on a aussi parlé spiritualité, religion. Et puis comme la librairie Yokai ne serait pas ça sans ça, on a surtout parlé de tout sauf du sujet, c'était très intéressant.
Voilà, c'est toujours très intéressant de tout parler sauf du sujet.
Voilà, donc n'hésitez pas à passer chez elle, c'est les Chroniques de l'étrange, et si vous êtes intéressé du coup par des témoignages, puisque comme tu le disais, effectivement, elle interview en fait des gens qui ont vécu des expériences, on pourrait qualifier de paranormal, dans le sens en tout cas que la science n'explique pas encore, et c'est super intéressant, c'est des longs témoignages, hein, d'environ une heure en général, et puis du coup, bah, elle explique aussi des cas de possession, d'antise, un peu de tout, hein. Il y avait The Mothman... Et il y avait aussi le Cainfield, par exemple, récemment. Elle est bientôt en vacances, mais ça vous laisse du temps pour écouter. Donc voilà, on a fait un guest.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, ouais. Voilà, c'était l'interlude, on a fait ça. Ok.
Et maintenant, on peut passer à la pop culture.
Oui, mais qui va être malheureusement une partie un peu courte, hein, je crois. En tout cas, ce mois-ci.
Pas grave, on se rattrapera.
Ouais, par contre, alors c'est là où c'est, entre guillemets, ambivalent, c'est-à-dire que le Zashikiwarashi est extrêmement populaire, dans le sens où on le voit beaucoup, au point où il a sa page sur TV Tropes, parce qu'on le retrouve effectivement énormément, et là-bas on le compare, alors c'est un concept que je ne connaissais pas, au Ousfei, je sais pas, quand ça doit être un peu du gallois ou du celte un peu, je ne sais pas.
Du païen.
Ouais, oui, tout à fait. Mais donc ce serait une fée de maison, en fait. Ce serait une fée qui est chez vous et qui prend un peu soin de votre maison. C'est à ça que ça me faisait penser à Dobby tout à l'heure. Pour le côté petit être mystique surnaturel qui apporte bonheur, prospérité, qui reste chez vous et prend soin de vous. Le tropes dans lequel il tomberait. Et dans ce sens-là, effectivement, on le voit beaucoup, mais sans le voir. Il est jamais super intéressant, il est jamais super important, en tout cas.
Ça me fait penser que dans l'œuvre de Miyazaki, des Ghibli, il doit forcément y en avoir. Hein.
Ils doivent forcément en avoir, peut-être pas sous une forme humaine aussi. Je,
je pensais à les petites boules de suie, là, les petites araignées boules de suie.
C'est un peu le concept, ouais. C'est un peu le concept. On l'évoquait en introduction, mais Crossolix ou XXXolix, voilà, c'est l'apparition principale. Je suis dégoûtée, j'ai pas eu le temps de sortir mes mangas. Je les ai, ils sont dans un carton. J'ai toujours pas eu le temps de les lire.
Et n'oubliez pas que Crossolix fait un crossover avec...
Tsubasa Reservoir Chronicle.
Voilà, exactement.
De Clamp
exactement.
Également. Donc, pour les connaisseurs ou les vieux de la vieille comme nous, Clamp, c'était la base quand on était jeune. Donc,
ben
c'est
oui.
Clamp, c'est ceux ben qui ont oui. fait tout simplement Cardcaptor Sakura, donc Sakura Chasseuse de Cartes. Ils sont essentiellement quand même connus pour ça, pour notre génération. Mais ils ont aussi fait d'autres trucs très connus, donc en particulier Tsubasa Reservoir Chronicle. Oh là là. Ah oui, alors, RG Veda... Tokyo Babylon, X, ouais, c'est pas XX, c'est X, Magic Night Rider, enfin, ils ont fait énormément de choses. Cardcaptor Sakura, c'est quand même, je pense, le plus connu, mais aussi Angelic Layer, par exemple, ou Chobits. C'est vrai que Chobits avait eu un petit succès.
Chobits aussi. Mais je me dis que Clamp, c'est 4 nanas ou 3 nanas, je sais plus.
4 nanas, je crois. Nous vous parlons d'une époque que les jeunes d'aujourd'hui ne connaîtront peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, en tout cas, moi, à mon époque, mon adolescence, ils étaient super connus, les Clamp. Donc tout ça pour dire, voilà, Crossolix, c'est un manga de Clamp qui nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Watanuki et qui peut voir les fantômes. Et par un concours de circonstances.
Ah, mais j'avais pas vu que tu l'avais écrit, qu'il y avait un crossover, pardon.
C'est pas grave. Par un concours de circonstances, en fait, il se retrouve à travailler pour une, on va dire, une sorcière qui s'appelle Yuko Ichihara, qui, en fait, troque des vœux. C'est-à-dire qu'elle réalise des vœux pour les gens, et en échange, ils vont lui rendre une sorte de service. Et en fait, alors, au début, pas trop, mais plus vous avancez dans l'histoire, et plus il y a vraiment des yokai. Et alors, ça va peut-être rappeler des souvenirs à ceux qui l'ont lu à l'époque. Moi, ça m'avait pas marqué du tout que c'était des yokai. Mais vous avez des tengu, du coup, vous avez une Zashiki Olashi. Et si vous allez sur la liste Wikipédia, vous avez énormément de yokai, en fait. Mais comme j'étais pas très sensibilisée au monde des yokai, à l'époque, j'avais pas fait attention.
Et c'est là où t'as le yokai qui te coupe la tête si tu te coupes les ongles la nuit.
C'est là-dedans ?
Ben oui, c'est je crois que c'est le premier volume de Clamp. Alors, il a pas encore trop pigé qu'il a le pouvoir de les voir et tout ça.
Quoi. D'accord. Il y a des petites libertés hein, qui sont prises évidemment avec les yokai, hein, notamment la Zashiki Walashi serait plutôt une adolescente, donc 15 ans. Elle aurait des longs cheveux noirs, un petit peu plus âgée du coup, et en fait, elle n'a pas de pouvoir particulier, c'est juste un être surnaturel, notamment pas de pouvoir par rapport à la chance et à la prospérité. Elle habite au cœur de la montagne avec des Kalasu Tengu qui en fait sont ses protecteurs, je trouve ça un petit peu rigolo, mais elle est voilà, très belle, très, comment dire, très gracieuse, etc. Et en fait, cette légende nous rappelle un petit peu le folklore de Yamabito, mais beaucoup plus cool, hein, parce que c'est pas une sauvageonne, hein, elle est vraiment... Je sais pas si tu te souviens de l'image. Il y a une image très connue où tu la vois en train de jouer, j'allais dire du pipeau, mais c'est pas du pipeau, une sorte de flûte là, de traversière. Et elle est assise sur un rocher avec un super joli kimono, etc. Alors elle sert apparemment essentiellement dans l'histoire à tomber amoureuse du héros comme souvent. Donc ce manga, moi je vous le conseille, il est vraiment très très sympa. C'est un peu petit peu slice of life, hein, c'est très léger comme truc.
Ouais.
Chaque chapitre est une espèce de mini enquête de Watanuki, puis t'as un petit peu de fantasy. Et comme tu disais, un crossover avec Tsubasa Reservoir Chronicle, j'en suis pas arrivée là, moi. Donc voilà pour la référence principale, hein, celle en tout cas dont on nous a parlé, dont on nous a beaucoup parlé, et puis que nous deux on connaissait. Shigeru Mizuki, évidemment, a fait une illustration, ouais. Mais alors là c'est rigolo parce que son interprétation est plus proche de la traditionnelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est vraiment un petit gobelin, un petit nain. Ouais. Peau violette, joue bien rouge, mais un petit peu sauvageon. On n'est vraiment pas dans le Zashiki Walashi stylé et très sympa, on est un petit peu plus dans le petit sauvageon Yamabito. Donc voilà pour les mangas que j'ai pu trouver. Côté jeu, Toho, tu disais tout à l'heure, effectivement. Hein.
Oui, et puis Omyoji aussi. Hein.
Omyoji qu'il va falloir que je... C'est un free-to-play, je crois. Donc il va falloir que je le télécharge quand j'aurai de nouveau la fibre.
Bon, cette fois, elle n'est pas trop sexualisée, heureusement.
Non, elle n'est pas trop sexualisée. Par contre, on est vraiment, voilà, c'est kimono rouge. Elle a une corne et des longs cheveux noirs aussi, mais on est vraiment dans une représentation, entre guillemets, classique, mais pas dans le sens traditionnel, dans le sens... On la représente comme à l'air Edo. Et puis le dernier, bah, Yokai Watch. Hein. Là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un... Alors, j'ai pas joué depuis très longtemps à Yokai Watch, mais du coup, ce serait un yokai qui a un petit peu deux côtés, hein, on va dire, deux visages. Une forme, du coup, de Mamoligami, qui serait un ado avec une coiffure un petit peu bobo, cheveux noirs, encore une fois, habit traditionnel, mm-hmm. mais un petit peu modernisé. Et son deuxième visage, ce serait un tengu. Donc c'est rigolo, un tengu qui serait basé sur Sojobo, ça rappellera des souvenirs à ceux qui avaient suivi notre épisode spécial tengu. Est-ce que t'avais d'autres références, toi, jeux vidéo ? Mais je crois pas, hein.
Non, j'ai pas réussi à trouver. On aurait pu en voir dans Project Zero, par exemple, le jeu qui reprend l'horreur japonaise avec tous les fantômes, les Onryo, etc., où tu dois les prendre en photo pour te battre. Si ça se trouve, il y en a, mais j'ai cherché particulièrement sur ce jeu-là, parce que ça aurait été le plus logique, et j'ai pas réussi à en trouver. Je l'ai pas fait, hein, Project Zero, comme jeu, donc ça aurait été plus simple si je l'avais fait.
Bon, si on voulait tout faire ce qu'on voulait, on aurait besoin de 3 journées, au moins.
Oui.
Donc voilà, des petites apparitions quelquefois dans des animés, dans des light novels. Light novels, ça sert pour être souligné. Films, voilà, sculptures, un petit peu de tout. Mais jamais, jamais ouf, quoi. Hein. C'est jamais le héros, sauf dans le light novel que j'ai vu, parce qu'il s'appelle The Zashiki Warashi of the Intellectual Village. Light novel, qu'est-ce que c'est ? C'est des romans courts, on va faire ça très simple, qui sont en fait faits pour être lus très rapidement, notamment dans le train. Et alors, tu le vois l'abstract, tu le vois le résumé, c'est un peu ouf. Donc le Intellectual Village, ce serait des villages à l'ancienne, hein, un peu Edo, mais qui en fait seraient recréés avec une technologie, c'est la technologie moderne, recréerait des villages d'antan. Ces villages sont connus pour attirer des yokai, parce que je suppose qu'ils peuvent retrouver le c'était mieux avant dans ce village. Et donc on suit un lycéen qui se retrouve à vivre avec un zashiki walashi. Voilà, ça n'a pas l'air de casser trois pattes à un canard, mais ça a l'air d'être un light novel un petit peu rigolo. Donc voilà pour la pop culture. J'ai rien de plus à en dire. Hein. On joue vraiment souvent sur ce côté très moderne du Zashiki Walashi et très rarement sur ce côté un peu gobelin, sauf pour Shigeru Mizuki.
Non, je pense qu'on a fait le tour là. Mm.
Et ailleurs. Alors moi, quand j'ai fait les recherches de ces petits enfants qui couraient partout, j'ai tout de suite pensé au château de Fougeray. Je pense qu'on a déjà parlé ensemble du château de Fougeray.
Comme ça, ça me dit rien.
Ça me dit rien. C'est ce qui semblerait être le château le plus hanté de France, et qui est devenu en fait un hôtel. Donc,
il n'y avait pas eu un podcast du gars là, de France Inter.
Non, c'est sur un autre affaire sensible. C'est sur un autre château. Le château de Fougeray en fait tourne tout son marketing autour du fait qu'il est hanté. Ils ont raison. Hein. C'est ça les aide aussi à retaper le château parce qu'il était dans un état lamentable. Le bébé yokai est arrivé. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se rendent dans ce château parce que tu peux y passer une nuit et en fait tu peux carrément payer un forfait où tu vas faire du spiritisme avant d'aller dormir, etc. C'est vrai ou pas, je vous laisse aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos qui en parlent, qui débunkent ou au contraire qui disent que c'est vrai, c'est à vous de faire votre propre idée. Mais tout de suite, moi, un lieu hanté par un enfant, ça m'y a fait penser parce que en fait chaque chambre du château serait habitée par un esprit en particulier et il y aurait une chambre habitée par une petite fille. Pareil, qui serait pas forcément méchante. Par exemple, préférerait de mémoire la présence des femmes. Donc c'est un peu ce à quoi ça m'a fait penser. Donc c'est une piste à explorer pour vous. Forcément, ça m'a fait penser à Peter Pan et aux amis imaginaires. Voilà, Peter Pan pourquoi ? Parce que si vous vous souvenez, Peter Pan, seuls les enfants peuvent le voir. Seuls les enfants peuvent aller sur l'île... L'île quoi déjà ?
Imaginaire.
L'île imaginaire, voilà.
L'île imaginaire.
Et en fait, à partir du moment où vous devenez un adulte, où vous devenez trop vieux dans votre tête, vous ne pouvez plus le voir. C'est un peu ce à quoi ça m'a fait penser, ces petites légendes. Voilà, pour le petit
et
point
et ailleurs.
N'oubliez
pas que Hook est un film fantastique.
Ouais. Je ne l'ai pas vu, il faut que je le voie. Il faut
que tu le voies.
Est-ce que ça t'avait fait penser à d'autres légendes ? Alors, tu parlais de la Banshee, mais c'est un petit peu très particulier. Hein. C'est non. Seulement la variante du coup qui prévient des catastrophes.
Il y en a plein, ne serait-ce que dans The Witcher. Tu as toute une quête dans Witcher 3 qui tourne autour d'un bébé qui est mort et qui peut revenir sous forme de monstre. Alors, c'est moins... Alors quand tu sais que The Witcher s'est tiré du folklore scandinave, à mon avis, en Scandinavie, il doit y avoir pas mal de trucs. Quoi.
Il y a beaucoup plus d'enfants en Scandinavie, j'ai l'impression, en tout cas dans les pays du Nord où il fait froid là-bas. Mais c'est vrai que nous, quand on a des légendes d'enfance, c'est souvent pas très cool quand même.
Non, nous, c'est moins joyeux.
Ouais, et par contre, en esprit protecteur, les petites fées, ça peut être sympa, mais c'est les fées de maison. C'est pas forcément des enfants en fait qui sont décédés et qui reviennent sous la forme de fantômes. Donc voilà pour les pistes à explorer si jamais vous voulez élargir un peu vos horizons par rapport aux Zashiki Walashi. Pour aller plus loin sur le Zashiki Walashi en tant que tel, on le compare souvent à d'autres yokai qui sont les Kitsune Mochi et les Inugami Mochi. Alors Kitsune Mochi, c'est assez particulier parce que c'est une forme de possession qui apporte également la prospérité à la famille. Donc Kitsune, le renard, et Inugami, le dieu chien du coup. Mais en fait, il y a une contrepartie, c'est-à-dire qu'elle apporte le malheur à vos ennemis. Et là, c'est un petit peu moins cool que le Zashiki Walashi qui ne fait que vous apporter le bonheur. Donc on le compare parce que vous avez cette même idée en fait de prospérité qui va venir dans votre maison. Mais par contre, le Zashiki Walashi est entièrement positif, il ne fait pas de mal à vos ennemis. C'est quand même plus cool.
Bon, après, c'est les ennemis, quoi. Donc,
œil pour œil, dent pour dent, hein.
Ouais, voilà.
À Aomori, donc le manger des pommes, on a un esprit qui s'appelle le Makura Gaeshi. Donc Makura, c'est un oreiller, et Gaeshi, ça veut dire retourner. En fait, ce serait un esprit de petite fille qui retournerait les oreillers des clients des auberges pendant la nuit. Bon, c'est chiant, voilà. Mais là où c'est dangereux, c'est qu'à l'époque, la légende disait que retourner l'oreiller pendant que tu dormais, eh ben, ton âme s'envolait et ne reviendrait pas. En fait... Donc c'est pas très... Tu vois, c'est tout de suite moins bien. Donc le Makura Gaeshi serait du coup un fantôme pas forcément méchant, mais en tout cas si ça vous arrivait, c'était un petit peu dangereux. Donc c'était une sorte de Zashiki Walashi, mais vraiment un petit peu plus mauvais, un petit peu plus mesquin. Et enfin, une dernière piste, le Yukinko et le Yukihamba. Alors c'est un type de yokai pas très cool, mais dont on a déjà parlé entre guillemets, le Ubume. On a dû l'évoquer quand on parlait de Toshio et de The Grudge. Le Ubume, en fait, serait un fantôme de femme qui a perdu son enfant et qui se balade avec un cadavre, du coup, donc un fantôme de bébé, et qui essaye de le refiler aux gens, mais a priori... Il faut pas s'arrêter, quoi. Parce que si tu t'arrêtes, t'es foutu, elle va te tuer. Donc le Yukinko Yukiomba, vous avez peut-être connu le mot Yuki dedans, donc qui veut dire neige, ce serait un fantôme de femme esselée dans la neige qui tient un bébé, effectivement, emmailloté. Mais il faut absolument pas vous arrêter si vous la croisez, parce que vous allez être congelé et servir de repas à la Yukiomba. Le bébé, quant à lui, serait potentiellement un vrai bébé. Et là, ça se fait se poser la question. Donc ce serait potentiellement la mère qui serait morte et qui se baladerait avec son vrai bébé comme ça dans les tempêtes de neige pour aller se nourrir des humains qu'elle croise. Dans tous les cas, la Yukiomba serait quand même extrêmement protectrice et aimerait beaucoup ce bébé. C'est aussi ce qui la retiendrait sur Terre. Donc voilà pour trois petits Yoko, associés de près ou de loin aux Ashikiwalashi. Je trouvais ça intéressant d'en parler.
Bon, on a fait le tour.
On a fait le tour de ce yokai particulièrement complexe, mais qui, moi, m'a beaucoup plu, encore une fois, à travailler.
Et j'espère que les gens qui l'ont demandé seront satisfaits.
J'espère. On a essayé d'aller au plus loin. On ne vous a pas raconté les milliers de variantes, mais on vous a quand même fait pas mal ce soir. Moi, je suis vraiment très surprise de cette origine. Quelque part, un peu contente d'avoir trouvé ça, parce que ça rappelle que les yoko ne sont pas toujours très sympas, quand même.
Et puis, ouais, on ne va pas vous embêter avec les variantes, parce qu'il y en a tellement avec le Covid.
C'est pas très gentil. Bon, sur ce, le bébé yokai appelle, le devoir du bébé yokai appelle, donc on va devoir se quitter pour ce mois-ci.
C'est ça. Alors, comme je l'avais dit, j'étais très fatigué, donc je m'excuse.
Non, ça allait.
Du manque d'énergie, et c'est pour ça que j'ai plutôt, vous allez le remarquer en écoutant cet épisode, j'ai plutôt focus les digressions longues et qui n'ont rien à voir avec le sujet, plutôt que les blagues, qui étaient sûrement mauvaises.
Beaucoup de self-control de la part de Mathieu. C'est aujourd'hui. On le remerciera dans les commentaires, s'il vous plaît.
Bon, je sais pas si tu couperas la blague sur les prêtres, hein, mais bon.
Tu veux que je la coupe ? Edit post-prod, ne cherchez effectivement pas cette blague qui a été coupée au montage. Bon, sur ce, les Yoko, ben, on va vous dire une bonne nuit. Une bonne nuit à rêver et à écouter avec attention les petits bruits de pas et de jouets que vous entendrez chez vous cette nuit.
C'est ça. Et levez-vous et allez voir, on ne sait jamais, vous pourrez peut-être jouer avec eux.
Et envoyez-nous des photos. Oui, mais puis si tu arrives à faire une insomnie, je me dis que c'est cool d'avoir un Ashikiwalashi pour jouer quand même.
Je sais pas. Je
ah, t'es dubitatif du yokai du jour, toi.
Moi, je suis très peureux.
Très peureux. Bon, sur ce, on va se quitter gentiment, du coup. On va vous dire au mois prochain.
Voilà, et éviter de glisser sur une balle qui traînerait.